Non, non, c'est sûr. Qui ouvre en fait, je dirais de manière assez intuitive, le séminaire sur l'angoisse de Lacan, parce que jusqu'ici nous avons eu avec Samuel Ascari l'angoisse chez Freud sur la transition. Ensuite il y a Corinne Meyer qui a fait une présentation globale du séminaire de l'angoisse. Et aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans des livres beaucoup plus, je dirais, dans le bouquin même, quoi, et plus particulièrement sur. Sur le passage à l'acte et l'acting out et le passage à l'acte. C'est-à-dire, on va parler du suicide. Hein?
Enfin. Oui, je vais prendre ça à partir de la question du suicide, puisque j'ai travaillé sur cette question. Bien évidemment, le passage à l'acte et l'acting out, ce n'est pas forcément le suicide. Hein? Oui. Donc moi j'ai pris ça à partir de la question du suicide. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Éventuellement, peut-être je vous parlerai aussi de l'acte créateur après. On verra. Bon, ce que je vais faire est peut-être un peu... Je ne sais pas ce que vous avez lu, ce que vous n'avez pas lu. Bon, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je vous invite à m'interrompre pour les éclaircir éventuellement au fur et à mesure. Hein. Bon, il y a peut-être des références que je vais utiliser que vous n'avez pas forcément étudiées. Bon, donc moi je suis partie de la question. Enfin, ce qu'il faut d'abord en préliminaire dire, c'est quand même que chez Lacan, les termes qu'on utilise, qui font partie de la langue commune, n'ont pas le sens habituel. D'où la difficulté pour le lire. Parce que je pense que certains d'entre vous ont dû quand même lire un peu le séminaire L'Angoisse, on écoutait Fadil Abdari et Corinne Meyer, je crois. Et donc, le terme d'acte, par exemple, n'a pas le sens courant du terme. Donc, quand on se demande si le suicide est un acte, par exemple, eh bien, on n'est pas dans le domaine du sens commun, pour lequel, évidemment, si on se pose la question est-ce que le suicide est un acte dans le sens commun, on va répondre, bien sûr que c'est un acte, même un acte tout à fait définitif. Mais par contre, déjà, la question se posera plus, même dans le sens commun, si on parle des tentatives de suicide. Hein, on se dira que c'est aussi un lieu commun de penser que certaines tentatives de suicide sont de l'ordre de la comédie, du chantage, de la mise en scène. Et on entend souvent ça quand on est au chevet des suicidants, y compris à l'hôpital. Alors c'est une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette idée souvent que les suicides ne sont pas des vrais suicides. Pourquoi quelqu'un pourrait décider que les tentatives de suicide ne sont pas de vrais actes, que ce serait une mise en scène, par exemple. Eh bien, une hypothèse qu'on pourrait soutenir peut-être, c'est que il s'agit d'une incroyance. Une incroyance un peu paradoxale qu'auraient les gens, même les soignants, enfin les personnes qui s'occupent des suicidants, une incroyance paradoxale dans leur propre mort. Hein, Freud considérait en effet que nous avions une incroyance fondamentale dans notre propre mort, et il ramenait cette incroyance au défaut qu'il y aurait d'une représentation de la mort dans l'inconscient. C'est-à-dire, nous n'aurions pas, notre inconscient n'aurait pas accès à la mort. Et de ce fait, nous aurions tendance à ne pas y croire. Pour donner juste une petite anecdote, je me souviens d'une fois à l'hôpital, lors d'une présentation clinique, d'avoir rencontré une jeune femme qui était hospitalisée dans un service de psychiatrie mère-enfant. Et donc, on me commentait le fait qu'elle avait ouvert la fenêtre pour se précipiter, se jeter par la fenêtre, en présence de son mari. Et immédiatement, étant donné qu'elle avait couru vers la fenêtre pour se jeter par la fenêtre, c'était quelqu'un qui venait d'accoucher, quand son mari était entré, le commentaire qui venait automatiquement dans l'équipe, c'était que c'était du chantage. Elle voulait juste qu'on la retienne. Donc, ce n'était pas pris vraiment au sérieux. Et en fait, pourtant, quand on l'écoutait un petit peu, on l'entendait dire comment, bon, ce nouveau-né qu'elle venait d'avoir, elle passait tout son temps à le contempler silencieusement, avec l'envie de l'étrangler. Et là, on pouvait se dire qu'il y avait même dans l'équipe soignante, qui est pourtant un service spécialisé de psychiatrie mère-enfant, on hospitalise des jeunes mères avec leur nouveau-né en général, eh bien, il y avait là une sorte d'idéalisation de l'amour maternel, en fait, qui faisait que personne ne pouvait croire qu'elle avait envie d'étrangler son bébé, et que finalement, la manière qu'ils avaient de la soigner, c'était, bon, leur idée, si vous voulez, dans ce genre de service, c'était de réconcilier la mère et l'enfant. Et donc, bon, ils contraignaient cette jeune femme à un face-à-face quotidien avec cet enfant pour essayer de lui faire renouer une relation saine avec l'enfant. Mais en fait, quand on écoutait cette jeune femme, on se rendait compte que peut-être que ce n'était pas une méthode très astucieuse et qu'au fond, il y avait chez elle, une envie de meurtre, quoi. Quelque chose qui pouvait être gros de ce qu'on appelle un passage à l'acte, puisque c'est un des termes dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce cas, éventuellement d'un crime ou de certaines violences, en tout cas, qui auraient pu se produire entre elle et son enfant. Donc, ça veut dire que quand on parle de chantage, de mise en scène par rapport à une tentative de suicide, eh bien, il faut se méfier du sens commun, il faut se méfier de l'idée qu'on aurait que si le suicide est raté, c'est peut-être pas sérieux. La personne n'est peut-être pas voulue. D'ailleurs, il y a des choses aussi de bon sens qui est de se dire que finalement, quand quelqu'un fait une tentative de suicide, il ne sait jamais s'il ne va pas mourir. On ne peut pas le savoir. Alors, pour essayer de répondre à la question « Est-ce que le suicide est un acte ?», je vais essayer de préciser donc qu'est-ce que c'est qu'un acte au sens psychanalytique du terme. Je laisserai de côté les théories philosophiques de l'acte, qui sont extrêmement complexes et intéressantes, mais bon, dans lesquelles je ne rentrerai pas ce soir. Du moins, peut-être en contrepoint, je dirais deux, trois choses, mais je n'en parlerai pas sérieusement. Alors, Freud s'est posé la question de l'acte et de la différence entre l'acte et l'intention par rapport au suicide dans son texte « Deuil et mélancolie », texte donc qui date de 1915. Et dans ce texte, il oppose l'intention à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a un saut, si vous voulez, pour lui, de l'intention à l'acte. L'intention suicidaire, dit-il, suppose le retournement sur soi-même d'une impulsion meurtrière qui est dirigée contre un autre. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'intention suicidaire sans une impulsion qui vise un autre pour lui. Mais ça ne suffit pas à causer l'acte. Au fond, il ne suffit pas d'avoir l'intention de se suicider pour passer à l'acte. C'est ça que dit Freud. Pourquoi ? Parce que le moi est protégé de l'amour, de la mort par son amour de soi et par le narcissisme. Donc ça, c'est la théorie de 1915. Donc finalement, sa haine de l'objet, qui serait donc au départ de... cette haine de l'objet qui serait au départ de l'intention suicidaire, eh bien, cette haine de l'objet ne suffira pas à le faire se suicider. C'est une barrière narcissique qui va empêcher l'acte. Donc, ça veut dire que pour Freud, il y a vraiment un franchissement entre l'intention et l'acte. Et il se pose la question de comment expliquer ce franchissement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cède à ce moment-là? Et donc, c'est là qu'il a recours à la mélancolie. La mélancolie, qui est donc une affection extrêmement grave, qui au fond n'a pas grand-chose à voir avec le deuil. On est habitué depuis Freud à associer le deuil et la mélancolie, donc il faut bien dire que c'est Freud qui a introduit finalement ce rapprochement par rapport à l'idée qui semble-t-il d'ailleurs est une invention. On est tellement habitué qu'on a oublié ça, mais il semble que c'est Freud qui est le premier et associer la mélancolie à l'idée d'une perte. Bon. Et donc, nous, on est habitués maintenant à dire deuil et mélancolie, mais enfin, il faut bien dire qu'il y a quand même des mélancolies sans deuil. Bon, et il y a évidemment des deuils sans mélancolie, heureusement. Donc, il se reporte à la mélancolie, parce que dans la mélancolie, on sait qu'il y a souvent des suicides, et l'étude de la mélancolie pourrait expliquer ce franchissement, pour lui, de l'intention suicidaire à l'acte. Alors, ce qu'il va mettre en avant à ce moment-là, c'est quelque chose de pulsionnel, une composante pulsionnelle, qui est le sadisme. Donc, sadisme dont l'objet est une autre personne, en principe, Et c'est ça qui ferait pour lui la différence. C'est l'intervention du sadisme qui ferait la différence entre l'intention et l'acte. Alors pour lui, ça suppose que l'objet du mélancolique, donc sa théorie de la mélancolie, c'est que le mélancolique donc, a subi une perte d'objet et qu'il ne peut pas, une perte d'objet qu'il n'arrive pas à supporter. Donc il n'arrive pas justement à faire le deuil. Et il dit que cet objet du mélancolique, la théorie de la mélancolie, c'est que n'arrivant pas à faire ce deuil, le mélancolique introjecte l'objet en lui-même et que finalement il se tue pour tuer l'objet. On va dire très schématiquement. Mais le micro sert à rien. C'est pour ça que je ne parle pas dedans. Oui, je m'excuse, hein, la salle est assez grande. Rapprochez-vous. Je vais essayer de parler plus fort. Donc, cette intervention de la mélancolie, c'est pour donc faire intervenir l'idée que le sadisme permettrait le passage de l'intention à l'acte. Et donc, il suppose que finalement, dans la mélancolie, l'objet perdu, cet objet qui a été perdu dans la mélancolie, aurait occupé d'abord la place d'un objet différencié du moi dans les premiers stades du développement, qui aurait été haï par le moi, puis ensuite qui serait introjecté secondairement dans le moi. Donc ça, c'est la théorie qu'il développe en 1915. À ce moment-là, c'est le sadisme qui permettrait au moi de se traiter lui-même pulsionnellement comme cet objet qu'il est. Et donc il y a l'idée d'une haine. Alors la haine est quelque chose de normal. Ce qu'on peut dire, c'est que chez Freud, donc en 1915, il considère que c'est la haine qui nous permet de nous différencier de l'extérieur. Donc, il n'y a pas de relation d'objet, finalement, sans haine. Donc, ça, c'est normal. Donc, il y a un objet différencié, il est automatiquement étranger à lui. Le sadisme, c'est autre chose que la haine. Le sadisme, c'est quelque chose de pulsionnel qui permet que, une fois que cet objet a été différencié, quand il est traité sadiquement, éventuellement, par le mélancolique, parce que la théorie de Freud, c'est que le mélancolique a une certaine ambivalence et un certain sadisme vis-à-vis de l'objet, eh bien, une fois que cet objet a été traité sadiquement, il y a une possibilité chez le mélancolique, quand il réintrojecte cet objet en lui-même, une fois qu'il l'a perdu, n'arrivant pas à faire le deuil, il introjecte l'objet, et c'est cet objet introjecté qu'il va pouvoir traiter avec le même sadisme qu'il avait vis-à-vis de l'objet qu'il a perdu. Donc c'est ça sa thèse, c'est que le sadisme, dit-il, permet au moi de se traiter lui-même comme cet objet, pulsionnellement. Donc l'acte est lié à la pulsion, à ce moment-là, en court-circuitant l'amour de soi-même. Le moi, à ce moment-là, est écrasé par l'objet et peut consentir à son autodestruction. Donc le détour par la mélancolie permet de passer de l'intention, en résumé, donc passer de l'intention à l'acte par l'intervention de la pulsion. Alors ça, c'est l'explication qu'il donne en 1916. Il y a une autre explication que Freud va donner plus tard, dans ce qu'on appelle la seconde topique, à partir de 1920. Mais c'est toujours avec la pulsion, par l'intermédiaire de la pulsion, qu'il explique donc le suicide, la tendance au suicide. Ce qu'il va dire à ce moment-là, c'est que ce qui est dangereux pour le moi, c'est la déliaison des pulsions de vie et des pulsions de mort. C'est-à-dire que nous avons habituellement une intrication des pulsions de vie et des pulsions de mort, normale, si vous voulez, avec laquelle nous avons rapport à l'objet. Et quand il y a une déliaison, une séparation de ces pulsions, qui sont normalement donc intriquées l'une avec l'autre, eh bien, il y aurait une libération de la pulsion de mort et une possibilité à ce moment-là de tendance à l'agression et à la destruction, et aussi à l'autodestruction. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette théorie, autant la théorie de 1915, si vous voulez, sur la mélancolie, faisait appel à des notions quand même extrêmement pathologiques, la notion de la mélancolie, qui est donc une maladie très grave, pour essayer d'expliquer la tendance au suicide, même dans les cas normaux, si on peut dire, enfin dans les cas de suicide qui ne sont pas forcément mélancoliques, autant en 1920, la transformation en question, cette déliaison des pulsions de vie et des pulsions de mort, est conçue comme un processus assez banal, finalement. C'est-à-dire un processus qui arrive, par exemple, lors de la sublimation. Bon, or, la sublimation, c'est un processus quand même assez général. C'est-à-dire que toutes les activités que nous avons, qui ne sont pas directement liées à l'acte sexuel, on part de sublimation. Hein. Et aussi une autre occasion dans laquelle il y a toujours cette déliaison de son vie et de son mort, c'est chaque fois qu'on renonce à un objet d'amour. Chaque fois donc qu'on subit une rupture ou qu'on la provoque, chaque fois qu'on se sépare finalement de quelque chose, on s'identifie. Pour Freud, Freud a l'idée qu'on ne peut pas se séparer d'un objet qu'on a aimé sans s'identifier à lui. Donc ça, c'est l'idée qu'il a, hein, qui peut être contestée d'ailleurs. Ce n'est pas une idée évidente. Hein, mais qu'on ne peut pas se séparer vraiment sans garder quelque chose de l'objet. Et qu'à chaque fois qu'on fait ça, eh bien, il y a une sorte de déliaison des pulsions de vie, des pulsions de mort, et donc une possibilité de libération de la pulsion de mort. Ça peut évidemment indiquer que les séparations, les deuils, les pertes seront des occasions où le suicide pourra intervenir plus que dans d'autres occasions. Alors, dans le cas de la mélancolie, puisqu'il reprend quand même l'idée de la mélancolie comme étant évidemment le cas où le suicide, le cas où on peut étudier vraiment le suicide, hein, la mélancolie c'est le paradigme du suicide freudien, on peut dire d'une certaine façon. Eh bien, à ce moment-là, il y aurait justement une déliaison des pulsions de vie, des pulsions de mort qui serait extrêmement violente et qui pourrait même aller jusqu'à ce que le moi soit complètement envahi par la pulsion de mort. La pulsion de mort qui s'acharnerait alors contre lui et provoquerait son suicide. Alors, si on reprend la problématique de l'acte qui m'intéresse ici, donc je vous ai fait ce petit résumé très rapide de quelque chose qui est très compliqué chez Freud. Il faut bien se dire que c'est compliqué. Là, je vous passe beaucoup de détails. Il y a des contradictions entre certains de ses textes dans les années 15. Donc la question du rapport entre la haine et le sadisme est assez complexe. Enfin, bon, il y a plusieurs problèmes qui se posent que je passe un peu sous silence. Mais... si on reprend la problématique de l'acte, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que dans tous ces textes freudiens, l'accent est toujours mis sur une agression contre le moi. Le moi subit une agression, finalement, qui vient du surmoi, par exemple, qui vient de la pulsion de mort qui est localisée dans le surmoi. Mais, donc, le moi subit une agression, mais il y aura toujours, s'il y a suicide, consentement du moi à la mort. Il y a vraiment chez Freud l'idée qu'il y a un acquiescement du moi, un consentement. Le moi, dit-il, s'abandonne lui-même comme il laisserait un autre objet, il se laisse mourir. C'est-à-dire que finalement, il y a quand même, si on s'intéresse à l'acte, on peut dire un acte, là, à ce niveau-là, un acte de consentement, de laisser aller, de se laisser aller à la mort. Mais, et c'est ça qui est intéressant chez Freud, et qui est, parce que bon, effectivement, dans la philosophie, vous avez toute une tendance, par exemple, même dans la philosophie existentialiste, à l'idée qu'on pourrait... il y aurait bon, une liberté de la mort. C'est-à-dire qu'il y aurait un acte libre de la mort. Une question qui, effectivement, la psychanalyse peut remettre en cause, ne serait-ce qu'à partir de Freud, parce que il y a bien sûr un consentement à la mort, un laisser-aller, un consentement du moi, mais en même temps, ce que Freud pose, c'est que c'est en toute ignorance. Donc, ça, si vous voulez, contredit un peu l'idée du libre accès à la mort. Qu'une certaine forme de philosophie pourrait prôner, c'est que pour Freud, la mort n'a pas de contenu, si vous voulez, pour le sujet. La mort, dit-il, est un concept abstrait au contenu négatif pour lequel on ne saurait trouver une correspondance inconsciente. Et donc, au fond, on ne peut pas parler, finalement, d'un attrait pour la mort. Hein. Je pense, par exemple, à un philosophe comme Jean Henry, certains l'ont lu, qui a fait un traité du suicide, qui s'est lui-même suicidé, d'ailleurs. Justement développe une philosophie de l'attrait de la mort, de la liberté de la mort, du choix de la mort, eh bien c'est quelque chose qui va rentrer chez Freud n'a pas beaucoup de sens parce que justement il y a un consentement et ce consentement c'est le consentement de renoncer à une lutte, de céder si vous voulez à un combat inégal, hein, de consentir à la mort, mais on consent parce qu'on cède à quelque chose de plus fort que soi, on ne consent pas à quelque chose dont on connaîtrait Vous voyez, c'est pas comme si on se disait, bon, ben, je choisis la mort, c'est la vie et la mort, et je choisis la mort. Non, parce que la mort, on ne sait pas ce que c'est, on n'a même pas d'idée inconsciente de ça, Et pour Freud, finalement, toute idée qu'on a de la mort, c'est une angoisse, l'angoisse de mort. Et cette angoisse, il la ramène à l'angoisse de castration, c'est-à-dire à une angoisse de la perte. Et une angoisse de la perte est liée, bon, au complexe de castration, donc à quelque chose de sexuel. Et donc, on ne peut pas parler, à partir de Freud, d'un renoncement à la vie qui serait lié à un attrait positif de la mort, mais plutôt d'une angoisse, une angoisse devant la haine du surmoi, si on prend les termes de la seconde topique, qui provoque la fuite. C'est-à-dire le suicide va être une fuite, un réflexe de fuite. Et donc, il y a bien une décision de mourir, il y a une décision, il y a un consentement, une décision de mourir, mais cette décision est liée à un renoncement, à une lutte qui s'avère désespérée, que ce soit une lutte interne face au surmoi ou une lutte externe face à un danger extérieur. De toute façon, consentement, oui, mais le terme de consentement à la mort n'a pas de sens. C'est un consentement à quelque chose, mais il y a un vide de la représentation sur consentement à la mort. Et donc l'idée de l'inclination à la mort, qui est une expression de ce philosophe Jean Amery, par exemple, ou qu'on retrouve chez d'autres, n'aurait donc pas de sens si on suit Freud. C'est-à-dire qu'elle paraît suspecte d'une idéalisation, une idéalisation d'une décision fatale qu'on prendrait en désespoir de cause sous une contrainte interne. Et donc l'angoisse de mort, l'angoisse de mort qui est chez Freud un terme qui existe, la Todesangst, c'est une angoisse d'abandon, de rupture, de séparation, et Freud l'associe plutôt à l'angoisse de la naissance et à la détresse de la séparation d'avec la mère, thème qui sera amplement repris par la psychanalyse kleinienne, notamment. Alors Lacan a repris aussi cette idée de la séparation, et pour ceux qui ont jeté un œil sur le séminaire L'Angoisse, trouveront déjà des indications de ce terme, même si c'est pas dans ce séminaire-là qu'il l'élabore vraiment, c'est dans un séminaire postérieur qu'il est. Séminaire qui s'appelle les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, date de 64. Et déjà dans le séminaire L'Angoisse, vous avez une élaboration de la question de la séparation, avec la séparation des objets, par exemple, comment les objets se séparent des objets fictionnels, qui est une ébauche de cette théorie de la séparation. Et le terme de séparation, comme le terme d'acte sur lequel on a parlé, le terme de séparation chez Lacan a un sens particulier. C'est-à-dire que ça n'est pas uniquement à entendre comme. Justement, quand Freud dit séparation de la mère, oui, la séparation de la mère, c'est ce que c'est. L'enfant est séparé de la mère, c'est quelque chose qui est un mot de la langue commune que Freud réutilise. Par contre, chez Lacan, ça devient un concept, la séparation. Concept, il utilise l'étymologie du terme, l'étymologie latine du terme de séparation. Il fait un jeu de mots avec séparere en latin, qui veut dire s'engendrer soi-même. Et donc la séparation, chez Lacan, devient comme une sorte de naissance, si vous voulez, d'auto-engendrement. Donc se séparer, et d'ailleurs, ça paraît complètement se séparer de la mère, c'est au fond, c'est-à-dire s'auto-engendrer d'une certaine façon. Et chez lui, donc chez Lacan, la séparation devient une sorte d'opération que nous réalisons répétitivement, c'est-à-dire nous ne nous séparons pas une fois pour toutes, nous passons notre temps à nous séparer des autres que nous rencontrons, chaque fois finalement qu'on est confronté à leur désir. Chaque fois qu'on est confronté au désir d'un autre, qui compte pour nous, eh bien, on va se demander qu'est-ce qu'il veut de nous, et la réponse qu'on va trouver, c'est une séparation, c'est-à-dire on va trouver une réponse par un objet auquel on va s'identifier dans ce désir, c'est l'énigmatique de l'autre, et qui va nous représenter dans ce désir. Donc le terme de séparation que vous trouverez dans ce séminaire doit être déjà même dans le séminaire L'Angoisse, doit déjà anticiper cette idée non seulement de quitter l'autre, le terme de séparation au sens de quitter, mais le terme d'un engendrement, d'une production de quelque chose. La séparation, c'est une production. Et il utilise effectivement ce terme pour le suicide. Le suicide est une forme de séparation. Le sens où le sujet, c'est-à-dire que s'il va un petit peu plus loin que Freud dans la question de qu'est-ce qui est visé, au fond, chez Freud, c'est négatif. Il y a un consentement, bon, il y a un contenu positif de la décision, le terme de décision est un terme qu'on retrouve très souvent chez Freud, décision, consentement, mais lié à un vide de la représentation positive de la mort, et plutôt lié donc à une décision de fuite. Donc chez Lacan, il y a quand même un contenu différent, puisqu'il y a l'idée quand même que ce que le sujet cherche entre ses parents, et le suicide, c'est une forme de séparation de l'autre, c'est à se retrouver dans un objet, à retrouver au fond une forme d'identité, si vous voulez. Bon, je peux le dire comme ça. Par exemple, j'avais trouvé un exemple dans une pièce de théâtre de Sarah Kane, qui est une jeune auteure anglaise qui s'est suicidée, un auteur de pièces de théâtre, dont Isabelle Huppert a joué une pièce, d'ailleurs, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, qui s'appelle Psychose 448. Oui, 448 psychose, dans ce sens-là. C'est qui est la dernière pièce de théâtre, d'ailleurs, qu'elle a écrite avant sa mort. Mort par suicide. La pièce de théâtre qu'elle a écrite à l'hôpital psychiatrique. Et en fait, dans ce moment qui précède juste son suicide, où elle écrit, qui est un moment où il y a une sorte de bagarre, de confrontation très forte avec son psychiatre, avec la personne d'interpellation d'un autre, qui a l'air d'être le psychiatre, en tout cas, eh bien, on voit qu'en effet, c'est ça qu'elle recherche. Elle ne recherche pas la mort. Elle le dit d'ailleurs, hein, elle le dit tout à fait clairement. Je peux la citer. Elle dit « C'est moi-même que je n'ai jamais rencontré, dont le visage est scotché au verso de mon esprit, que je recherche. » Donc c'est quelque chose comme ça, elle recherche soi-même dans l'acte de suicide. Eh bien, c'est une forme de séparation. C'est-à-dire que c'est un suicide de séparation, c'est-à-dire qu'elle recherche quel objet elle est pour l'autre, et nous ne pouvant pas trouver des équivalents sur un plan du désir, si vous voulez, eh bien, il y a quelque chose qui... on appelle un passage à l'acte, sur lequel on va revenir, qui fait qu'elle va incarner, au fond, vraiment dans le réel, hein, d'une manière totalement réelle, dans cet objet, dans son cadavre, on peut dire, ce qu'elle va offrir à l'autre. Et bien donc, ça c'est quelque chose chez Lacan, ce concept de séparation, qui nous montre que, c'est une manière de relire ce que dit Freud dans Deuil et Mélancolie, mais en éclairant un tout petit peu plus le sujet que chercher dans la mort et dont vous avez des indices dans le séminaire d'angoisse. Alors dans la théorie lacanienne, donc on a une théorie de l'acte qui est très complexe. Très complexe, très complexe. Plus complexe que celle de Freud, je pense, plus compliquée, et qui porte la trace évidemment de tout le rapport à la psychiatrie de Lacan, certainement. Et de son rapport à la philosophie aussi. Et donc il va développer une problématique de l'acte, particulièrement dans les années 60, et donc dans ce séminaire L'angoisse, c'est un peu le cœur de l'élaboration de cette théorie de l'acte. Bon, il va continuer après, mais je pense que c'est le moment le plus fécond peut-être de cette théorie. Et donc il va développer cette opposition qui est devenue classique entre l'acting out et le passage à l'acte. Donc je suis censée vous parler de ça. L'acting out... Bon alors, pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Lacan ou qui souhaiteraient s'y retrouver un peu, c'est une élaboration qui se poursuit donc après dans la suite de ce séminaire. Et il y a même un séminaire non publié pour le moment, qui date de 67-68, qui s'appelle l'acte analytique, dans lequel, autour de la question de qu'est-ce que fait l'analyste, il va reprendre de manière encore plus compliquée la théorie de l'acte. Alors, il y a donc cette séparation que je vous ai introduite comme un concept lacanien qui permet déjà d'approcher la question de l'acte chez lui. Il y a sinon 2 autres références qui sont freudiennes, hein, qu'il faut connaître, qui sont d'une part une notion qui est assez facile à comprendre, celle de l'acte manqué. Hein, acte manqué donc, que Freud développe dans sa psychopathologie de la vie quotidienne tout au début de son œuvre, vers 1905. Et une autre donc, théorie de l'acte chez Freud, qui est ce que Freud appelle l'agieren, c'est-à-dire l'acte associé à la répétition chez Freud. Donc ça, ce sont deux... Et là, je vous donne 3 références de l'acte chez Lacan, qui sont la séparation. Séparation qui était introduite par Freud, si vous voulez, avec l'idée de l'angoisse de séparation, reprise par Lacan d'une manière un peu plus élaborée. Et puis, 2 autres concepts freudiens, l'acte manqué et l'agieren qui a donné la notion d'acting out dans la littérature analytique, en fait. et qui est ce que Freud appelle donc l'agirone, c'est le fait que le sujet se mette à agir au lieu de parler dans l'analyse. Ça veut dire que c'est très simple. Alors, l'acte manqué, donc vous savez ce que c'est, hein, Freud développe en effet en 1901 une théorie du suicide à propos de l'acte manqué. Donc il parle du suicide comme une méprise. Toujours avec cette idée, donc, que finalement, une idée très freudienne, que quand on veut se suicider, on se trompe. Hein, cette idée-là, chez Freud, que ce qu'on veut quand on se suicide, c'est pas forcément la mort. C'est un peu ça. Effectivement, quand vous lisez 448 de Sarah Kane, c'est assez clair. Et elle dit, j'ai pas mis le passage, mais elle dit quelque part que c'est textuellement marqué cette idée que aucun suicidé ne veut la mort. C'est écrit comme ça, aucun suicidé ne veut mourir, je ne sais pas si c'est exactement, j'ai pas maintenant. Mais bon, elle donc se retrouver quelque chose de soi, d'une identité perdue. Alors donc c'est une idée quand même qui remonte à Freud d'une certaine façon, dans la mesure où pour Freud, donc, mais c'est assez curieux si vous voulez, parce que l'acte manqué, en 1901, l'acte manqué, c'est quand même la chose la plus banale qui soit. Vous faites tous les jours des actes manqués. Hein. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai failli me tromper de sens dans le métro, par exemple, pour venir. Voilà, c'est vraiment... c'est quotidien. Hein. Vous arrivez chez vous, vous arrivez chez quelqu'un, vous sortez votre clé. C'est un exemple que Freud prend, moi, c'est quand même un exemple inverse. Bon, enfin, on ne fait que ça. Alors, ça paraît bizarre de mettre le suicide, c'est quand même un acte exceptionnel, dans la rubrique des actes manqués, en mettant très surprenant. Et donc, alors, ce que Freud appelle les méprises, donc il y a différentes sortes d'actes manqués, donc ce qu'il appelle la méprise, c'est une sorte d'acte dont, dit-il, l'effet manqué semble constituer l'élément essentiel. Vous voyez, mettre le suicide dedans, c'est toujours mettre l'accent sur le fait qu'il y a une méprise, une méconnaissance, quelque chose. C'est l'effet manqué qui est essentiel dans l'affaire. Alors, bon, ben, en fait, il y a une intention inconsciente dans l'acte manqué, une intention inconsciente qui est condensée souvent dans un jeu de mots ou dans une équivoque par le sujet quand il la raconte après. Parce qu'évidemment, on ne sait qu'un acte est manqué que quand on en parle après. Quand on le fait, on ne sait pas qu'il est manqué. C'est dans le récit après coup que vous allez faire de votre acte manqué, éventuellement à votre analyste, mais aussi à n'importe qui. C'est au fond en écoutant ce que vous dites de l'acte manqué que vous en saurez quelque chose. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée, c'est que dans l'acte manqué, il y a une intention inconsciente, qui souvent est condensée, quand on dit qu'elle est condensée en un jeu de mots ou dans une équivoque, c'est après tout qu'on saura. Et qui va transformer, malgré moi, mon action en une autre action. Et ça n'est qu'après coup, donc, par l'association libre, que je vais pouvoir savoir pourquoi j'ai fait cet acte inattendu. Bon, moi, je m'aperçois qu'il est manqué parce qu'il me paraît inattendu. Il y a un effet de surprise. Et donc, l'idée, c'est que cet acte manqué nécessite forcément une lecture après coup. Pour pouvoir même, dire qu'il y a un acte manqué, il faut qu'il y ait une lecture après coup. Sinon, on ne peut même pas dire qu'il y a un acte manqué, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas parler d'un acte, si vous voulez, dans cette thèse de l'acte manqué, on ne peut même pas parler d'un acte sans avoir l'après coup de la parole sur cet acte. On pourra nous dire quelque chose de ça. D'où l'idée, si vous voulez, que finalement, il n'y a pas d'acte, déjà chez Freud, bon ça c'est évidemment, je suis inspirée par la lecture qu'on a fait Lacan pour vous dire ça, mais c'est quand même déjà en germe chez Freud cette idée que l'acte manqué, s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas un après-coup pour en parler, on ne peut même pas parler d'acte manqué. Bon là, ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'acte s'il n'y a pas de parole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'acte s'il n'y a pas de langage. Et donc, du coup, chez Lacan, il va forcer ça. Il va forcer ça, si vous voulez, il va le pousser à l'extrême. C'est-à-dire que, du coup, l'acte va perdre sa dimension d'action. C'est-à-dire que ça va perdre la dimension d'action. Bien sûr, il y a toujours une action. Mais, disons, l'insistance qu'on va mettre sur le concept va le séparer d'un fait. Par exemple, là, je bois un verre d'eau, ça n'a rien à voir avec un acte. Maintenant, si je renverse le verre d'eau, que, par exemple, je peux plus lire mes notes, vous voyez, là, on pourra peut-être dire, mais... Mais en tout cas, ça vient de cette idée de l'acte manqué chez Freud, où il y a besoin d'un après-coup, et qui fait que finalement, chez Lacan, ça va devenir que un mouvement, une action, quelque chose qui implique souvent le corps, finalement, eh bien, ça ne deviendra un acte que par son rapport au langage. Lacan appelle ça pointe signifiante. Pointe signifiante, le signifiant chez lui, c'est donc les éléments, le reprend ça de Saussure, c'est les éléments phoniques, si vous voulez, du langage, c'est les éléments les plus matériels de la parole. Donc, il donne un exemple, il reprend un exemple célèbre, qui est l'exemple du franchissement du Rubicon par César. Hein. Il dit, bon ben voilà, ça c'est un acte, quand César a franchi le Rubicon pour envahir la Gaule, marcher sur Rome plus exactement, quand César donc a franchi le Rubicon, l'acte ne réside pas dans le fait de passer à la nage ou en bateau sur le fleuve, ça c'est au fond un mouvement, une action. L'acte, là, c'est un acte de franchissement, c'est-à-dire c'est un acte de transgression, c'est-à-dire, au fond, il marche avec l'armée sur Rome. Il va dans le sens contraire. Il était censé partir avec l'armée pour conquérir Rome. Là, il marche sur Rome pour conquérir la ville qui, en principe, est sa commanditaire. Donc, c'est, si vous voulez, ce qui fait l'acte dans l'histoire, c'est le franchissement d'un seuil, hein. Et donc c'est associé à ce rêve célèbre que raconte César dans la guerre de Gaulle, comme quoi c'est Suétone qui raconte dans la vie des douze Césars que César avait rêvé de coucher avec sa mère, ça avait fait un rêve d'inceste juste avant. Donc cette idée, au fond, même si ça n'est pas de César, c'est pas les associations de César, mais bon, cette idée, si vous voulez, de la transgression a bien été retenue par les contemporains sous cette forme probablement imaginée d'un rêve d'inceste. Et donc finalement, c'est ça qui fait le côté de l'acte, c'est ce franchissement d'un seuil, cette idée symbolique, et non pas l'action de marcher. Et donc, on ne pourra pas parler d'un acte sans qu'on ait découvert ce côté signifiant, et pour découvrir ce côté signifiant, on aura besoin du sujet pour le dire. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, donc ça, c'est un premier point, et un deuxième point, qui vient aussi de l'idée de l'acte manqué, c'est l'idée que finalement, tout acte réussi est toujours enveloppé d'un ratage. Ça, c'est une autre idée lacanienne très forte, c'est qu'il n'y a pas d'acte, finalement, qui n'ait frôlé le ratage d'une certaine façon. C'est-à-dire que il y a toujours un côté manqué dans l'acte, le plus réussi. Donc, il y a une sorte d'inversion chez Lacan, c'est-à-dire l'acte manqué, finalement, devient un paradigme de l'acte réussi. Parce que pour réussir un acte, il faut finalement, je vais en parler après, il faudrait qu'on coïncide avec une intention inconsciente, or c'est toujours quasiment impossible. Et donc il y a toujours quelque chose qui va faire dévier, et donc il y a toujours un nœud là très difficile à dénouer. Bon, évidemment, c'est pas réciproque, il précise qu'il ne suffit pas de faire un acte manqué pour que ce soit un acte. Il a une haute idée de l'acte. Et donc, finalement, l'acte, l'idée de l'acte, ça devient quelque chose de compliqué, vous voyez. Hein. Ça devient de plus en plus loin du mouvement, de la dimension corporelle de la chose. Ça pose toujours la question d'une vérité refoulée. Une vérité refoulée qui serait cette intention inconsciente qui, à un moment donné, va prendre le pouvoir, je puis dire. C'est-à-dire que finalement, vous allez chez quelqu'un, et puis il y a cette intention refoulée qui va prendre le pouvoir à un moment donné, qui va faire que vous allez sortir votre clé, alors que vous devriez sonner à la porte, par exemple, et ça c'est quelque chose, par exemple, effectivement, ça peut être un désir de possession. Ça peut être un geste de conquête, justement. Un peu comme César marchant sur lui. D'ailleurs, vous savez que dans l'amour, les histoires de clés rendues jouent un rôle toujours très important. Alors c'est pour ça que chez Lacan, le concept d'intention que nous avons trouvé chez Freud, mais qui pour Freud était déjà inégal à l'acte, hein, on a vu. Chez Freud, il y avait un saut entre l'intention et l'acte. C'est pour ça que le concept d'intention, qui évidemment a été élaboré par la philosophie, et notamment la philosophie analytique dans les années 50, donc avant que Lacan, lui, parle de l'acte, eh bien il laisse un peu de côté ce concept d'intention. Il va laisser de côté le concept d'intention comme un peu inadéquat, avec l'idée, il lui substitue l'idée d'un vouloir dire. Le vouloir dire. Donc l'acte veut dire quelque chose. Donc c'est pas j'ai l'intention de, c'est l'acte lui-même veut dire quelque chose. Il y a dans l'acte un dire, ou plutôt un vouloir dire. Ce n'est pas tout à fait pareil qu'un dire, parce qu'on peut vouloir dire quelque chose et ne pas arriver à le dire. C'est que justement, l'acte veut dire, mais il ne dit pas. Il y a une distance entre vouloir dire et dire. Il ne dit pas tant qu'on ne l'a pas fait parler. Toujours l'idée que c'est après coup, dans le commentaire que je vais faire, que nous saurons ce qui était en jeu. Qu'on ne le saura pas au moment de l'acte. Donc l'acte veut dire, mais il ne dit pas. Et donc, ce hiatus entre vouloir dire et ne pas dire, c'est là que Lacan loge finalement une sorte d'incompatibilité entre le désir inconscient et la parole. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impossibilité. Je ne peux jamais dire tout mon désir inconscient. C'est impossible. C'est-à-dire qu'au fond, il rompt là, comme Freud avait rompu d'ailleurs en 1914, avec l'idée naïve que nous pourrions, y compris par une psychanalyse, mettre au jour toute la vérité. C'est-à-dire que nous pourrions savoir ce que nous avons dans le ventre. Malheureusement, ce n'est pas vraiment exact. Freud a dû lui-même renoncer à cette idée qui était son idée du début de la psychanalyse, et justement, il y a renoncé par rapport à cette deuxième dimension dont j'ai parlé, de l'agiren, de l'agir, hein, et qui est, au fond, ce qu'on appelle l'acte symptomatique, ou l'agir symptomatique, qui a donné l'acting out dans la littérature analytique, c'est-à-dire l'idée que, quand vous êtes en analyse, mais quand vous n'y êtes pas aussi, vous faites tout le temps, simplement quand vous êtes en analyse, ça se voit un peu plus, eh bien, dans le mouvement de dire votre désir, parce que vous ne pouvez pas le dire complètement, justement, parce qu'il y a un refoulé irréductible, eh bien, vous allez faire des actes symptomatiques, c'est-à-dire des actes qui veulent dire quelque chose, qui veulent dire ce que vous ne pouvez pas dire, qui vont parler à votre place d'une certaine façon, sauf qu'ils ne parlent pas, ce sont des actes, et que donc il faut les déchiffrer. Et avec l'idée, donc, chez Freud, que par le déchiffrage après coup de ces actes, vous pouvez encore récupérer une part de ce qu'on ne peut plus se dire parce que ça a été refoulé définitivement. Donc ça, c'est une idée très importante qui est annoncée chez Freud. Donc il y avait 1901 l'acte manqué. Hein, je donne un peu les références. Bon, je sais que c'est assez compliqué, mais donc c'est justement effectivement la théorie analytique, c'est un peu comme ça. On rompt évidemment avec un sens commun et donc on a toute une complexité, si vous voulez, des notions qui s'imbriquent les unes dans les autres. Mais je pense que si vous voulez lire le séminaire l'angoisse, il faut que vous aviez un peu en tête que même si Lacan ne les reprend pas toujours, il a ses références dans les autres. Et donc l'idée de l'agiren, c'est donc la mise en acte, on appelle souvent ça la mise en acte, on traduit ça en français comme ça, eh bien la mise en acte, c'est lorsque le refoulé, au lieu de venir sous la forme de souvenir dans la cure, se met à s'exprimer en action. Et donc ça a donné chez Freud, enfin chez les post-freudiens plutôt, l'idée d'une dévalorisation de l'acte. C'est mal vu. C'est-à-dire, dans la littérature analytique, on considère que c'est mal vu quand le sujet se met à faire n'importe quoi, les analystes s'inquiètent. Parfois avec raison. Et chez Lacan, il y a quand même une idée assez différente. Il y a l'idée d'une noblesse de l'acte qui infiltre quand même son œuvre, qui fait que même dans ses actes mal fichus, si vous voulez, de l'analysant qui voudrait dire quelque chose, qui n'y arrive pas, et qui donc va faire ce qu'on appelle un acting out, c'est-à-dire un acte symptomatique qui éventuellement peut être après redéchiffré après coup, mais qui parfois peut être grave, bon, eh bien, il y a toujours l'idée quand même d'une certaine noblesse de l'acte, c'est-à-dire que finalement, puisque le désir ne peut pas se dire, de toute façon, il y aura toujours un moment où il y aura un acte. C'est-à-dire que l'issue normale du désir, c'est l'acte. C'est-à-dire que nous sommes faits pour faire des actes. Donc, il n'y a pas la dévalorisation de l'acte, mais une valorisation. Et avec, évidemment, la question qui se met à ce moment-là en place, c'est qu'est-ce que c'est les bons actes, quoi. Comment on va savoir chez Lacan, l'idée. Non, parce que chez Freud, il y a quand même l'idée que ces actes-là sont des ratés, quand même. Qu'il faut donc essayer de les déchiffrer. Chez Lacan, il y a aussi cette idée, mais il y a l'idée quand même que, puisqu'il y a une incompatibilité entre le désir inconscient et la parole, puisque tout le désir ne peut pas se dire, l'issue normale du désir sera l'acte, de toute façon. Et que donc, l'analysant... Comment ? Oui, mais ça, on va y venir. Alors après, il y a différentes sortes d'actes, et toute la difficulté, évidemment, c'est de... de s'y retrouver une fois qu'on a dit ça. Parce que... Mais il y a quand même l'idée que l'acte est normal. C'est-à-dire que finalement, puisque c'est logique, puisqu'on ne peut pas dire le désir, il faut bien que le désir trouve une issue, ou sinon ça veut dire qu'on va réprimer le désir, et l'analyse n'est pas faite en principe pour inhiber les sujets. Hein, je veux dire, c'est une conception étriquée de l'analyse que de penser qu'on est là pour les empêcher de faire quelque chose. Par exemple, de les empêcher de faire des bêtises. Voilà. Donc, comme il n'y a pas cette idée-là, une idée éducative truquée, il est évident que l'acte va être à un moment donné l'issue normale du désir. Alors tout est dans qu'est-ce que c'est, alors que cette issue normale entre guillemets, comment est-ce qu'on saura que c'est le bon acte par rapport au désir ou pas, par exemple. Voilà. Donc toute la difficulté, effectivement, de la notion de l'acte chez Lacan vient déjà de cette idée que de toute façon il y aura un acte, quelle sorte d'acte, comment, et comment qualifier cet acte. Alors, donc, son idée, au fond, c'est que il vaut mieux, si vous voulez, enfin, il vaut mieux, entre guillemets, mais disons que plus on se rapproche du désir, tout en sachant que c'est impossible, plus on sera proche de son désir, plus l'acte sera approprié, moins il sera manqué, mais tout en sachant qu'il sera forcément un peu manqué, puisqu'il n'y aura jamais de coïncidence. Donc c'est comme ça, si vous voulez, que lui, il reprend les notions freudiennes. Vous voyez, il y a toujours chez Lacan, quand il reprend les notions freudiennes, une sorte de subversion. Il ne les reprend pas simplement, il les inverse. L'acte réussi devient enveloppé forcément par l'acte manqué. La mise en acte devient quelque chose de normal. C'est pas pathologique. C'est l'issue normale du désir. Donc il y a toujours... L'idée de l'adaptation n'est pas freudienne, par contre elle est post-freudienne et elle est en particulier dans l'ego psychologique. Non, Freud n'avait pas l'idée de l'adaptation. Non. Non, au contraire, il y avait quand même l'idée qu'il y avait une décision fondamentale du sujet, même dans la fin de l'analyse, toujours, il y a toujours chez lui l'idée que le psychanalyste n'est pas un prophète, n'est pas un guide, n'est pas un éducateur. Enfin, il insiste à maintes reprises sur ce point de manière très ferme. Par contre, chez les post-freudiens, notamment chez sa fille, chez Anna Freud, il y a eu effectivement, avec toute l'émigration aux États-Unis, il y a eu une reprise assez adaptative de la psychanalyse et une régression vers la psychologie d'avant Freud. Enfin voilà, donc vous voyez un peu, bon, là je dis simplement un peu les paradoxes de l'acte, c'est-à-dire... Et d'où la difficulté dans la psychanalyse pour l'analyste aussi. Hein, puisque finalement, que va faire le psychanalyste hein, dans une psychanalyse, donc, tout va reposer du coup sur son interprétation du désir. Il va interpréter le désir, il ne va pas l'interpréter. S'il interprète le désir trop tôt ou maladroitement, il risque de provoquer l'issue de l'acte. Trop vite. D'où un ratage, un acting out. Quelque chose qui sera en dehors. En dehors, au fond, du désir. Mais si, il fait une interprétation maladroite, il peut aussi refouler le désir et l'inhiber définitivement. Alors, vous voyez, il y a donc toute une difficulté du côté de ce que Lacan appelait l'acte analytique, ou du côté de l'interprétation, par rapport à cette question-là. Bon, Lacan va très très loin dans ses interprétations. Par exemple, si vous connaissez un peu le cas de l'Homora, il y a un cas célèbre de Freud, qui est un jeune homme que Freud a analysé, et qui, après son analyse, est mort pendant la guerre de 14. Vous savez, il y a quand même eu beaucoup de morts pendant la guerre de 14. Eh bien, Lacan n'hésite pas à dire que la mort de l'Homora est un acte manqué lié à sa cure chez Freud. Il peut paraître absolument aberrant. On avait mis l'occasion de mourir pendant la guerre de 14. Mais, donc, il considère, ça va très très loin, il considère qu'il y a une responsabilité chez le sujet dans son rapport à la mort, même quand il est dans des circonstances dangereuses. Ce qui n'est pas faux. C'est vrai que même à la guerre, vous avez différentes façons de vous comporter. Même si vous avez de plus grandes chances de mourir à la guerre que pas à la guerre. En tout cas, il considère que finalement, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça ? Il ne veut pas dire que l'Homora est mort à cause de Freud, il est bien sûr mort à cause de la guerre. Cause matérielle de la guerre est là, mais il veut dire que s'il y a un acte dans la mort de l'Homora, si cette mort est un acte, c'est parce qu'il y avait chez lui un désir de mort, chez l'Homora, et que ce désir de mort n'a pas complètement été élucidé dans son analyse. C'est montré, mais n'a pas été élucidé complètement. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire finalement, s'il y a acte, Eh bien, c'est parce que il y avait un désir. Il dit pas, c'est, si vous voulez, c'est dans la mesure où on pourrait dire que c'est un acte, qu'à ce moment-là, on peut le lier à la cure chez Freud. Bon, je dis, on ne sait pas, finalement. On ne sait pas parce qu'il n'est pas là pour nous en parler. Toujours la même question, qui va justement être particulièrement importante dans la question du suicide et de la tentative de suicide, c'est que on ne sait jamais, tant que l'on n'a pas entendu le sujet, nous commenter la chose après. Voilà. D'où l'impossibilité de savoir grand-chose du suicide. Puisque le sujet ne sera pas là pour nous en parler. Par contre, lors des tentatives, lui, il sera là pour en parler, et on aura donc intérêt à en profiter. Donc finalement, vous voyez les caractéristiques de l'acte lacanien. D'un côté, donc je résume un peu, il représente l'émergence d'un désir qui ne peut pas se dire autrement que dans l'acte, il nécessairement va passer à l'acte, d'où son côté toujours transgressif. Il y a toujours dans un acte un côté transgressif. Et même, quand Lacan va pousser la théorie dans le séminaire lacanatique, il y a même un côté hors la loi dans tout acte. Parce que si vous voulez un vrai acte, c'est un peu son côté noblesse de l'acte, pensez à César, dans le vrai acte, le sujet ne va jamais avoir quelqu'un pour l'autoriser. C'est toujours lié à son propre désir, à une décision intime par rapport à son désir, à un moment donné, et donc un vide, hein, un vide dans lequel il va à un moment donné se jeter, et même dans les actes les plus éclairés, il y aura toujours cette portion, puisque tout le désir inconscient n'aura pas été élucidé. Donc il y aura toujours quelque chose comme ça dans l'acte, d'un côté hors la loi, d'un côté transgressif. C'est-à-dire que finalement, l'idée de la séparation, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'une vraie séparation, c'est quelque chose où on se jette quand même dans quelque chose qu'on ne connaît pas d'avance. C'est-à-dire on se sépare aussi de ce qui a été, par exemple, penser la séparation de l'enfant et de la mère. Après tout, l'enfant est pris dans une loi, on peut dire la loi maternelle, à ce moment-là, il est pris dans un réseau connu. La séparation, c'est quand même le moment où il sort de ça. C'est-à-dire c'est le moment où il se sépare aussi de ce qui a été sa loi jusqu'à présent, il fait un pas qui le rend sujet, et ce pas est lié donc à se jeter quand même, se retrouver dans un objet différent. Donc il y a premièrement ce côté transgressif hors la loi dans l'acte, ce qu'il ne faut pas oublier. D'où effectivement le côté inquiétant de l'acte. Inquiétant pour le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement il y a toujours une sorte de vide. On voit ça évidemment dans les actes importants de la vie, mais à certains moments, en fait, on a tous eu ce vertige devant quelque chose qui nous mettait en jeu de manière assez intime dans un acte. Alors d'autre part, deuxième thèse, c'est que l'acte, le vrai acte, va changer le sujet. Pourquoi il va changer le sujet ? C'est-à-dire que le sujet d'avant ne va pas être le sujet d'après. Pourquoi ? Puisque entre-temps, il y a eu un saut au niveau du désir. C'est-à-dire que finalement, vous aviez un désir. Vous ne pouvez pas se dire, vous avez un acte, et après cet acte, vous avez un nouveau sujet, c'est ce sujet séparé de ce qui était sa loi avant, avant l'acte. Le sujet séparé, c'est un nouveau sujet, d'une certaine façon, et donc Lacan dit, l'acte change le sujet. Et d'où aussi la difficulté, c'est que le sujet qui va vous parler après son acte, il va vous parler d'un sujet qui n'est plus. Il va vous parler de quelque chose qui est révolu. Donc il aura du mal à en parler. Et ça, c'est une caractéristique des passages à l'acte. Non seulement des passages à l'acte suicidaires, mais aussi des passages à l'acte criminels. C'est-à-dire que il y a un saut au moment de l'acte, en effet. Il y a un saut. On était, par exemple, dans une analyse, en général, dans une analyse, on espère qu'on ne va pas se suicider ou faire le crime. Mais disons, même pour un acte qui n'est pas un passage à l'acte, il y a un saut qui fait que vous allez parler, vous allez dire votre désir, disons, au maximum, puis à un moment donné, vous allez vous retrouver dans le vide de la parole, il va y avoir l'acte, après vous êtes changé, et quand vous allez parler, eh bien, il y aura eu ce moment de vide, et vous aurez du mal à retrouver ce que vous étiez. Une difficulté. Une difficulté de la parole, après coup, à retrouver, au fond, ce qu'il y avait avant. Oui, bien sûr, il y a un lien avec l'aspect pulsionnel. Alors, les termes de décharge, si vous voulez, d'énergie, etc., ne sont pas des termes que Lacan reprend comme ça, parce que justement, ce sont des termes quantitatifs, qu'il récuse un peu. C'est-à-dire qu'il les récuse parce que justement, ce sont des termes qui appellent tout de suite l'idée de régulation, l'idée d'une hydraulique. Vous voyez qu'on serait comme des baignoires à viser. Bon, j'exagère un peu, mais donc ça donne toute l'idée, une idée comme ça, de, un peu mythique de la manière dont nous fonctionnons. Donc lui, il a cherché quand même à se dégager de ce vocabulaire qui est une partie du vocabulaire freudien. Souvent, effectivement, a été mal compris en plus, parce que chez Freud, c'est seulement une partie et ça doit être articulé avec d'autres. Mais la pulsion, si vous voulez, en effet, vous avez raison, la pulsion intervient dans l'affaire, elle intervient autour de ces objets. Justement. Quand on parle de séparation, il y a l'idée d'objet dans lequel on va se retrouver, et ce n'est pas forcément un cadavre, ce n'est pas forcément un suicide, ça peut être un objet de désir. Donc on peut se retrouver dans un objet de désir. Un acte, ça peut être, je ne sais pas moi, un mariage, par exemple, ça peut être... un enfant, c'est-à-dire un enfant, on peut se retrouver comme ça dans des objets concrets, ou un objet d'art, une œuvre d'art. La création artistique, c'est une manière de créer des objets qui est tout à fait pulsionnel, et qui n'est pas forcément dramatique. Donc quand je parle du suicide, c'est une... parce que j'ai travaillé là-dessus, mais disons, c'est pas forcément, l'acte en lui-même n'est pas forcément quelque chose de catastrophique, au contraire. Donc si vous voulez, enfin, il y a cette idée du changement du sujet, et cette idée, même si on la pousse plus, si on reprend ce que j'ai dit, c'est-à-dire il y a un désir qui essaye de se dire, il n'arrive pas à se dire, il y a un vide, il y a un acte qui vient à ce moment-là, et puis après il y a un nouveau sujet. Si on dit ça comme ça, eh ben, on se aperçoit que c'est finalement même plus le sujet qui agit. On ne peut plus dire que c'est le sujet qui agit. Quelque chose agit, mais quoi? Quel est l'agent de l'acte? Et ça, c'est un point très difficile à comprendre chez Lacan, mais on peut essayer de reconstituer comme ça, en voyant un peu comme c'est mythique, la manière dont on reconstitue, parce que je le fais de manière chronologique, c'est un peu plus, bon, c'est pas aussi linéaire que ça, mais c'est quelque chose qui est difficile à comprendre quand Lacan parle de l'acte, c'est l'idée que c'est pas le sujet qui fait l'acte. C'est que l'agent de l'acte est un objet. Bizarre, quand on sait ça. L'idée bizarre, eh bien justement, c'est que vous pouvez le comprendre avec cette idée justement qu'il n'y a pas de sujet du désir. Finalement. Il n'y a pas de sujet qui est identique à son désir, qui peut dire le désir. Et donc l'acte se produit dans ce vide, et ce qui agit à ce moment-là, c'est ce qui cause mon désir. Et ce qui cause mon désir qui va faire que je vais me retrouver dans tel ou tel objet pulsionnel. Et donc c'est cette cause du désir que Lacan considère comme l'agent de l'acte, et qu'il appelle l'objectita, terme que vous allez donc trouver dans le séminaire d'angoisse. Donc c'est pas le sujet qui agit. Donc vous voyez, on va vraiment dans une théorie qui est très très originale, et très loin du sens commun. Et plus on essaye de le commenter, plus on s'aperçoit que finalement, on est effectivement dans un monde très particulier, quoi. Quand on parle de l'acte dans la psychanalyse, et dans ce séminaire d'angoisse dont on vous parle cette année. Et donc finalement, cet agent auquel il donne un nom, l'objectita, c'est quoi? Eh bien, c'est justement cette part du désir inconscient, c'est le nom qu'il va donner à cette part du désir inconscient qui est inassimilable à la parole. C'est une manière, si vous voulez, de lui donner un nom et de pouvoir la manipuler en lui donnant le nom, en disant c'est l'objet A. L'objet A, ça sera le nom de cette chose, justement, qui fait que je ne peux pas dire mon désir, mais que quelque chose me pousse à ce désir, je suis causé. Que quand je désire quelqu'un, par exemple, quelque chose fait que ce quelqu'un cause mon désir. Mais ce n'est pas lui qui cause mon désir, c'est quelque chose en lui. Quelque chose en lui, c'est quelque chose que je mets aussi en lui, que je trouve en lui par rapport à mes propres fantasmes inconscients. Hein. Donc c'est aussi quelque chose de moi. C'est quelque chose que je trouve en lui, mais que j'ai aussi qui vient de moi. Et donc c'est ça qu'il appelle l'objet A, et c'est pour ça qu'il appelle ça la cause du désir. Qui est donc pas le sujet. Alors à partir de là, donc, il y a une sorte de classification des actes qui vont être classifiés par rapport, au fond, au mode de manifestation de cet objet. Donc vous voyez, le coup de force de Lacan, c'est d'avoir bien saisi qu'il n'y avait pas de sujet de l'acte, parce qu'il n'y avait pas, donc le raisonnement, je vous le répète une fois de plus, c'est simple, il n'y a pas d'adéquation entre le désir et la parole, il y a donc un moment de vide où le sujet ne peut plus parler, à ce moment-là il va agir, mais ce qui le pousse à agir à ce moment-là, c'est... Dans ce vide, c'est la cause de son désir que Lacan appelle un objet, l'objet. Et donc, comment cet objet se manifeste, c'est ça qui va lui permettre de différencier les différentes sortes d'actes dans le séminaire d'angoisse. Et c'est comme ça, donc, qu'on peut différencier trois sortes d'actes, si vous voulez, qu'on pourrait appeler l'acte éclairé, c'est-à-dire l'acte noble, Bon, en sachant bien entendu qu'il n'y a pas d'acte pur et qu'il y a toujours une part manquée, etc. Enfin, il ne faut pas non plus faire un concept idéaliste et pur. Et puis l'acting out et le passage à l'acte. Et au fond, ce seront trois modes, si vous voulez, différents de manifestation de cet objet cosmique, qui permettent de les classer. Alors évidemment, l'acting out et le passage à l'acte seraient des actes pathologiques en soi, dans la mesure où ils témoigneraient toujours d'une difficulté du sujet, d'un empêchement ou d'un embarras. Là, je vous renvoie au tableau des affects que peut-être quelqu'un vous a déjà commenté, qui est dans le séminaire Angoisse, bon, qu'on vous commentera. Mais en tout cas, bon, qui témoigne justement de cette inadéquation du désir à la parole qui va se traduire dans différentes formes d'inhibition, de difficultés, d'embarras, d'émoi, d'empêchement, et Lacan fait toute une géographie de ça, donc je pense que quelqu'un vous en parlera sûrement. Alors l'acte éclairé, au fond, qu'est-ce qu'on pourrait appeler l'acte éclairé? Ben, ce serait, bon, je vous dis sans être idéaliste, c'est-à-dire en pensant qu'il y a toujours une part manquée, ça serait l'acte qui collerait le plus près possible au désir inconscient. Ça serait l'acte manqué absolument réussi, c'est-à-dire ça serait le moment où l'intention inconsciente qui est en train de faire dévier ma main, qui va chercher par exemple une clé dans la serrure, eh bien cette intention inconsciente prendrait vraiment toute la place, c'est-à-dire que l'acte éclairé, ça serait par exemple la décision de forcer la porte de la personne que j'aime, par exemple. Voilà. C'est un peu le côté Rubicon, vous voyez. Ce serait quelque chose donc qui serait transgressif, parce qu'il y aurait une intention inconsciente derrière. Qui serait la plus proche possible de l'acte. Alors cet acte donc éclairé serait déchiffrable après coup, et alors qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être un acte politique, l'acte de César c'est un acte politique, d'autres façons sont des actes créateurs, hein, les actes éclairés créent, un acte politique véritable doit créer au fond de nouvelles raisons collectives de vivre, ça peut être l'acte artistique, qui suscitera quelque chose de nouveau, un nouvel objet beau, hein, beau et satisfaisant la pulsion de mes semblables. Bon, alors Lacan met aussi dans la série l'acte analytique qui est pour lui l'acte non pas de l'analysant mais de l'analyste. L'acte analytique c'est l'acte et l'analyse, et ça serait donc un acte où l'analyste arriverait vraiment à être le plus proche possible de son désir d'analyste, pas de son désir personnel, mais de son désir comme analyste, c'est-à-dire d'une fonction qui lui permettrait donc d'analyser avec un désir particulier. Bon, alors là, c'est évidemment très compliqué, donc j'insiste pas là-dessus. Oui, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais disons, l'acte, enfin, on veut dire, tous ces actes éclairés, c'est des actes où on sera le plus proche possible du désir. Disons asymptotiquement, puisqu'on ne peut jamais y être. Alors, en tout cas, pour revenir à ce que je disais au début, sur le suicide, il est clair qu'on aura du mal à considérer le suicide comme un acte éclairé, dans la mesure de ce que j'ai dit au début notre Freud, à savoir que dans le suicide, si vous voulez, on ne peut pas dire justement que le désir de mort soit quelque chose qui soit justement une intention inconsciente valable, hein, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Donc effectivement, d'où effectivement la réticence des psychanalystes par rapport au suicide. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents par rapport au suicide, mais il y a quand même un discours idéaliste sur le suicide, parfois, comme quoi justement, ça serait, alors c'est un discours philosophique qui dit que le suicide est un acte libre, le véritable acte libre. Bon, alors, on trouve des choses comme ça chez Lacan à certains moments, il dit que le suicide c'est l'acte véritable, des choses comme ça, le seul acte véritable. Et quand il dit ça, c'est assez ironique, on y viendra tout à l'heure, ça veut dire que c'est le seul acte véritable parce qu'on n'en sait rien. On ne saura pas, on ne saura rien. Dans le suicide, c'est le seul acte dont on ne saura rien, puisque le sujet ne sera pas là pour en parler après. Et donc, ça a un statut absolu d'acte, peut-être, mais quelle sorte d'acte, on ne le saura pas. Puisque la mort du sujet interdira toute interprétation après coup de son acte. On ne peut pas interpréter un suicide analytiquement. Mais donc, bon, il y a cette réticence des analystes sur le suicide comme acte éclairé, vient du fait que justement, il n'y a pas d'éclairement de la mort. Donc, c'est difficile de considérer le suicide comme un acte. Alors ensuite, il y a l'acting out. Alors l'acting out chez Lacan n'est nullement propre à l'expérience analytique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en analyse que vous ne faites pas des acting out. Lacan a utilisé très largement le terme d'acting out sur des sujets qui n'étaient pas encore en analyse. Hein, que, par exemple, commenter le cas de Dora dans les cinq psychanalyses, ou un autre cas de Freud de la jeune homosexuelle, en qualifiant d'acting out des comportements qu'avaient ces jeunes filles avant d'entrer en analyse. Donc l'acting out, on pense toujours être lié à l'analyse, chez lui est décollé. Il est décollé parce que c'est une sorte d'acte. Il est décollé de l'analyse. Il peut arriver dans l'analyse, mais il peut arriver en dehors. C'est une sorte d'acte. Alors, je vous ai dit que les actes donc, se caractérisaient différemment par la manière dont l'objet ptita, c'est-à-dire la cause du désir, l'agent de l'acte, se manifestait. La définition qu'il donne de l'acting out, c'est l'idée que l'objet A monte sur la scène. Donc c'est l'idée qu'il y a une scène, une mise en scène du sujet dans l'acting out, et que dans cette mise en scène, le sujet va vous montrer son objet A, c'est-à-dire il va vous montrer la cause de son désir. Pourquoi c'est un acting out? Parce que le montrer, évidemment, c'est pas réaliser le désir. Le sujet va être à côté. Il est à côté parce qu'il va vous montrer son désir, mais lui-même, il n'y est pas. Hein, il va vous montrer ça, mais il ne sera pas justement dans le véritable acte où il aurait approché la cause de son désir. Il va vous le montrer, mais il ne saura pas que vous le montrez. Donc l'acting out, c'est quelque chose comme ça. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que je prends de ma propre pratique analytique. D'une conduite suicidaire. Le suicide, et là, tout en vous disant bien que l'acting out et passage à l'acte sont des catégories plus larges que le suicide. Mais là, je prends un exemple de conduite suicidaire. Donc, une jeune femme, magistrate, qui venait de subir une rupture amoureuse extrêmement douloureuse. Donc, elle souffre intensément et les rêves dont elle fait à ce moment-là ont une très forte tonalité de deuil. Et elle éprouve des tentations suicidaires dont elle me parle en séance. Sur ces entrefaites, donc c'est une magistrate, sur ces entrefaites, son père, son propre père, donc c'est une coïncidence, donc comment on va aller dans cette ambiance funèbre un peu, à ce moment-là, son père est accusé d'attouchement sexuel par sa nièce. Donc sa nièce accuse le père d'attouchement sexuel. Donc la patiente n'en est qu'à moitié surprise et elle y croit immédiatement sans preuve, ce que je lui fais remarquer. Il dit au fond, pourquoi est-ce que vous croyez que votre pourquoi vous croyez ce que dit votre nièce? Alors pendant quelques mois, il va y avoir une sorte de chassé-croisé, évidemment, de discussions familiales confuses, avec cette accusation de la nièce, et donc ma patiente qui ne sait plus très bien qui elle est dans cette affaire, est-ce qu'elle est la fille de son père, est-ce qu'elle est la tante de sa nièce qui dit avoir été abusée, est-ce qu'elle est la juriste aussi, représentante de la loi. Cependant, elle semble beaucoup moins triste. Et un jour, donc elle a l'air d'aller mieux, et un jour, elle dit qu'elle m'a caché quelque chose de grave, car elle craignait mon jugement. Et donc, à ce moment-là, elle me confie que depuis quelque temps, elle s'est mise à avoir des rapports non protégés avec un de ses amants, donc à la suite de la rupture, s'est mise à avoir une relation assez multiple, elle s'est mise à avoir un rapport non protégé avec lui, ce qui lui fait craindre d'avoir contracté le sida. Donc je la presse pour en dire plus, et elle me confie ce qu'elle voulait en fait dissimuler. Parce qu'en fait, ce qu'elle voulait dissimuler, c'était pas qu'elle se protégeait pas sexuellement. Bien entendu, en dissimulant ça, elle voulait dissimuler autre chose. Et là, la dimension de l'acting out va apparaître dans tout ça. Pourquoi, au fond, c'est un acting out de ne pas se protéger? C'est ça la question. Eh bien, donc quand je la presse d'en dire plus, elle va me confier ce qu'elle voulait en fait dissimuler. Ce qu'elle voulait dissimuler, c'est que lorsqu'elle avait ses rapports à risque avec cet amant, avec lequel elle ne prenait pas de préservatif, il jouait au pédophile et à la petite fille. C'est-à-dire qu'elle jouait à la petite fille avec un pédophile. Et d'ailleurs, cet amant, elle l'avait choisi comme c'était un père, il avait lui-même deux petites filles. Et donc, elle faisait une mise en scène, c'est elle qui initiait ça, donc elle voulait faire une mise en scène de la petite fille avec un pédophile. Et donc, le sens de l'acting out, là, pourquoi est-ce que je dis que cet acte, alors l'acte, donc c'est ne pas mettre le préservatif, d'accord? Pourquoi je dis que c'est un acting out? Parce que, justement, elle a mis en scène la cause de son désir. C'est quoi la cause de son désir? C'est que finalement, elle est jalouse de sa nièce. C'est-à-dire que, inconsciemment, au fond, ce qui est ambigu chez elle, dans toute cette affaire, c'est qu'inconsciemment, si vous voulez, elle a un désir d'inceste vis-à-vis de son père, et elle aurait bien aimé, inconsciemment, bien sûr, avoir été cette petite fille séduite par le père, par son propre père. Bon, évidemment, c'est quelque chose qui doit rester refoulé, ça veut dire l'inceste. Et l'acting out, avoir des rapports non protégés, vient donc réunir un certain nombre de conditions. Premièrement, il a lieu dans une conjoncture de séparation. Elle est dans une période de deuil, quelque chose de perte. Et d'autre part, l'homme, donc cet homme qu'elle a perdu, cet homme donc l'a lâché pour une autre femme, donc, et la laisse dans un vide où elle cherche donc à ce moment-là un support fantasmatique. Comme elle est laissée à ce moment-là, donc il faut qu'elle s'appuie, donc à ce moment-là il y a un retour du fantasme en force. Donc, quand vous êtes dans une période, quand vous êtes névrosé et que vous êtes lâché par un objet, vous avez tendance évidemment à vous appuyer sur quelque chose pour survivre, et ce quelque chose, ça va être quelque chose qui supporte votre désir, c'est-à-dire votre fantasme. D'où, si vous voulez, l'émergence aussi plus forte des fantasmes incestueux chez elle, du désir qui l'anime, et à ce moment-là, coïncidence, il y a cet acte de son père qui prend la signification d'une trahison, qui va coller avec la trahison de l'homme. L'homme l'a trahi pour une autre, le père l'a trahi aussi pour une autre. Donc il y a une collusion inconsciente, si vous voulez, des différentes chaînes, comme ça. Hein, elle est trahie par un homme, elle est trahie par son père, puisqu'il est avec la nièce. Et tout ça, bon, fait ressurgir ses propres désirs incestueux refoulés, dont elle a besoin par ailleurs, parce qu'il faut bien qu'elle s'appuie sur quelque chose. Et à ce moment-là, donc elle fait une mise en scène, elle s'identifie dans la mise en scène à la petite fille séduite, et elle joue ça avec son amant. Et elle joue ça avec son amant, donc ça ne peut pas être dit dans la cure. Elle n'arrive pas à le dire parce que la force des désirs incestueux est telle que ça, justement, ça va donner plutôt un acte ou une parole à ce moment-là. Et on a deux indices de tout ça, d'ailleurs, c'est que, il y a deux indices quand même qui sont passés dans la cure, c'est le fait qu'elle ait cru immédiatement à l'allégation d'inceste du père. Pourquoi elle y a cru immédiatement? Parce que ça correspondait bien à ses propres désirs. C'est ça qui l'a fait croire à ça, alors que comme juriste, après tout, elle aurait pu se poser des questions, pour d'autres raisons aussi d'ailleurs. Et donc ça c'est le premier indice. Et le deuxième indice, c'est qu'elle m'avait dit auparavant, avec une véhémence extrêmement surprenante, chez une juriste plutôt libérale qu'elle était par ailleurs, que tous les pédophiles méritaient la peine de mort. Ça m'avait paru assez excessif dans sa bouche, et enfin pas conforme à ce qu'elle pensait d'habitude. Donc il y avait deux indices quand même là de quelque chose qui détonnait, si vous voulez, qui était un peu en décalage par rapport à son discours. Et donc l'acting out montrait tout ça, c'est-à-dire il montrait la petite fille séduite par le père, donc elle réalisait comme ça un désir fantasmatique, et en même temps elle se punissait. Elle se punissait en ne prenant pas de préservatif, en n'utilisant pas de préservatif. Qu'est-ce qu'elle signifiait? Elle signifiait là son identification hystérique au père criminel. C'est-à-dire, finalement, elle valait pas mieux que lui, elle était sa complice. Elle était la complice du père criminel commettant l'inceste avec lui, et donc il fallait se punir de ça, et elle se condamnait à mort. Quand elle disait qu'il fallait condamner les pédophiles à mort, elle condamnait son père à mort, et elle se condamnait elle-même comme la complice du père pédophile. C'est ça qu'il fallait entendre derrière cette sévérité surmoïque qui apparaissait. Donc vous voyez, c'est un tout petit exemple, je dirais, mais c'est quand même effectivement le discours du sujet qui permet de reconstituer tout. Elle condamne à mort les pédophiles, donc elle condamne à mort son père, qui a un désir incestueux, et elle se condamne à mort comme la complice de ce désir incestueux, parce que c'est elle qui fait la mise en scène. Et elle s'identifie au père, au fond, quelque chose là qui la mûre dans le silence, c'est le fait qu'elle soutient ce désir-là. Elle est d'accord, fondamentalement. Voilà, inconsciemment. Et donc, dans l'acting out, finalement, dans ce petit oubli de préservatif, il y avait la monstration sur une scène de, au fond, ce qui constituait la cause de son désir, c'est-à-dire être une fille séduite par son père. Et donc, alors, la difficulté, évidemment, dans la cure, c'est qu'est-ce qu'on fait. La difficulté qui s'est toujours posée pour les analystes, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec les acting out, comment l'analyse répond à un acting out. Je dis répond, puisque il va avoir connaissance de l'acting out, évidemment, quand il se réalise. Et quand donc le sujet va en dire quelque chose. Parce que, bon, en effet, quand on parle d'acting out, souvent, on pense que ça se passe en dehors de la cure. ça se passe évidemment pas dans la séance, ça peut vous dire, mais on en aura connaissance que par le discours du sujet et au moment où il va en dire un petit quelque chose. En général, il va dire un truc qui plaît, et donc dans ce cas-là, il va falloir à ce moment-là plutôt l'interpréter. Voilà. Mais la difficulté, Lacan souligne que la difficulté de l'interprétation de la coming out, c'est que ce qui est visé dans la coming out, c'est de montrer la cause du désir, de la faire monter sur la scène, et c'est pas uniquement le sens. C'est pas un sens au niveau de chercher du sens à quelque chose. En tout, le sujet s'en fiche du sens. Ce qu'il veut, lui, c'est du concret. Voilà, il veut montrer la cause du désir et quelque chose de concret. Oui, il montre à l'analyste, mais lui-même, il n'est pas dedans, il est à côté, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. C'est pas ce qu'il fait, et c'est très difficile de faire restituer à ce moment-là au sujet le sens de sa conduite. C'est pour ça qu'on est obligé bon, de passer par le détour de l'association libre, ça peut prendre un certain temps avant que, il faut que ce soit le sujet lui-même qui soit retrouvé. Bah, après, l'interprétation, ça dépend. Si vous voulez, dans un cas comme ça, à un moment, vous le montrez du doigt, une fois que le truc est déplié, c'est facile. Il vaut mieux que ce soit le sujet qui déplie. Le sujet des prix, à ce moment-là, bon, je dirais c'est ça. Oui, ben, il faut lui dire que c'est ça, à un moment donné. Quand il déplie, il faut lui dire oui. Donc, il y a aussi, si vous voulez, dans la, par exemple, de trouver les indices. C'est-à-dire, quand elle m'avait dit que tous les pédophiles devaient être condamnés à mort, je lui avais dit que je la trouvais des sévérités surprenantes par rapport à ce qu'elle me disait d'habitude. Ou bien, quand je lui avais demandé pourquoi elle croyait, vous voyez. Donc ça, ce sont des choses, si vous voulez, qui, de ma part, ont probablement induit le fait qu'elle me dise qu'elle était en train de faire cet acting depuis déjà un certain temps. Parce qu'à ce moment-là, bah oui, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire quand on dit des choses comme ça, oui, c'est une intervention. Si j'avais rien dit du tout, bon, elle aurait peut-être rien dit, elle n'aurait jamais dit ça. Elle aurait très bien pu dissimuler ça définitivement. Bon, je sais pas, je suis peut-être un peu longue là. On va s'arrêter au bord du passage à l'acte. C'était un peu long là. Non ? Alors je termine le passage à l'acte. Bon. On va vers le pire. Alors donc je disais que donc c'était la classification des actes, c'était par rapport donc à la manière dont la cause du désir allait se mettre en place. Comment l'agent, la cause du désir, se manifeste. Donc dans l'acting out, vous voyez comment il se manifeste, il monte sur la scène, on le voit. Alors ça peut être grave, ça peut ne pas être grave. Hein, ça peut être un suicide, ça peut être... Là, c'est un comportement suicidaire. Ça peut être drôle, pourquoi drôle hein. Non, mais attendez, c'est pas une mise en scène théâtrale, c'est un théâtre, mais c'est le théâtre vraiment du sujet, c'est le sujet. Oui, oui, oui. Mmh. Mmh. Oui, elle le montre, mais elle le montre sous une forme assez opaque. Si vous voulez, là, on voit bien que c'est opaque. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit que d'un seul coup, qu'il a décidé d'avoir. Enfin, qu'il vous a pas dit qu'il avait des rapports à risque. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être absolument n'importe quoi. Donc, là, on voit bien qu'effectivement, tout va être dans le discours qui va se tenir à ce moment-là. Parce que ça pourrait vouloir dire des choses différentes. Qu'est-ce qui est opaque pour vous aussi. C'est pas opaque uniquement pour le sujet, c'est opaque aussi. C'est toujours par rapport, quand l'acting out est déchiffré par l'analyste, c'est toujours parce qu'il connaît beaucoup de choses du contexte. Quelqu'un d'extérieur ne peut pas le déchiffrer. Le sujet non plus, mais quelqu'un d'extérieur non plus. Alors le passage à l'acte, donc, chez Lacan, donc, ça va être le contraire de l'acting out, d'une certaine façon, c'est-à-dire que dans l'acting out, le sujet quand même, il y a quelque chose de désir qui va monter sur la scène, tout ça, le désir du sujet. Alors que chez Lacan, le passage à l'acte, au contraire, va exclure d'une certaine façon le désir. C'est-à-dire que il y a une sorte de... Pour les opposer de manière très simple, en disant, dans l'acting out, l'objet monte sur la scène, dans le passage à l'acte, au fond, le sujet bascule hors de la scène avec l'objet. Hein, c'est-à-dire que finalement, il y a un effacement du sujet corrélatif de... du fait que l'objet va sortir de la scène. C'est-à-dire le sujet va s'identifier à l'objet et sortir de la scène. Sortir de la scène, c'est-à-dire sortir de la scène du monde. D'où le rapport, évidemment, électif du passage de l'acte avec le suicide. Je vous cite donc un passage du séminaire L'Angoisse. Là, je l'avais noté dans une transcription, donc je n'ai pas vérifié la citation dans l'édition publiée. Mais donc, c'est dans la séance du 23 janvier, je l'ai retrouvé dans le texte publié, il y a aussi les dates. C'est au moment du plus grand embarras, avec l'addition comportementale de l'émotion comme désordre du mouvement, donc avec un contexte là que je n'ai pas développé, affectif, embarras, émotion, etc., la condition, en le lisant, on peut le reprendre, que le sujet se précipite du lieu de la scène où, comme sujet fondamentalement historisé seulement, il peut se maintenir dans son statut de sujet. Alors ça, c'est vraiment la séparation, c'est-à-dire c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Le sujet fondamentalement historisé, c'est-à-dire un sujet qui est dans une chaîne signifiante. C'est un sujet qui est toujours dans un discours, pris dans une chaîne de parole, dans un discours. Et à un moment donné, il va se séparer de cette chaîne de discours, qui est quand même le vecteur de son désir en même temps. On a dit que la parole ne coïncidait pas avec le désir, mais elle tente, bon, la parole tente de suivre le désir, de dire le désir. Et à un moment donné, le sujet, au lieu de suivre cette élaboration qui pourrait l'amener vers un acte, une forme éclairée de l'acte, ou qui l'amènerait par un acte d'out s'il veut aller trop vite, pour s'expliquer en montrant, eh bien il rebrousse chemin. C'est-à-dire qu'il se sépare de ça. Il ne veut plus de ça. Il refuse le fait de dire le désir. Il refuse ça. Mais il se sépare de ça, il veut se retrouver directement dans un objet. Et donc, il y a cet objet A qui est que le sujet ne connaît pas, qui petit à petit était en train de se dire dans l'analyse, par exemple, ou qui était en train de donner un acte, éventuellement, ou un acting out par latéralisation, eh bien, cet objet-là, d'un seul coup, se manifeste réellement, mais en se séparant de cette chaîne signifiante qui, le sujet, se tenait, dans la tendance fondamentalement historisée, c'est-à-dire avec tous les signifiants de son histoire. C'est comme s'il rompait tout ça, pour se retrouver directement, brutalement, dans un objet. Hein, c'est un peu ce que Sarah Kane dit quand elle dit « je veux me retrouver moi-même », avec cette phrase très forte de quelque chose de visage scotché à son esprit, enfin quelque chose du visage et du désir comme ça qui sont mêlés, bon, et le sujet veut à ce moment-là se retrouver dans un objet directement. Il ne veut plus passer par l'élaboration inconsciente du désir. Donc il y a un refus de l'inconscient. Il y a un refus de l'inconscient, refus de la dimension du désir inconscient comme quelque chose qui vous tient et qui vous saisit. Et à ce moment-là, bon, il y a passage à l'acte, c'est-à-dire sortie de la scène. Alors, évidemment, dans le suicide, la sortie de la scène, c'est assez concret. Hein, mais ça peut être d'autres formes de passage à l'acte. Je vous donne un petit exemple pour finir. Donc c'est un exemple que j'ai prélevé dans une présentation clinique, donc de quelqu'un donc, avec qui j'ai eu un entretien. Où on voit bien l'objet A, on voit bien ce que c'est que cet objet qui est l'agent de l'acte. Donc il s'agissait d'une mère, une femme, donc qui était mère, et qui avait tenté de tuer ses trois enfants avant de se suicider. Au moment où je l'ai vue, c'était 20 ans après cet acte. Donc c'était lors d'une rechute où elle avait été réhospitalisée. Mais donc cet acte datait de 20 ans après. Et donc ces trois enfants, elle avait tenté de les tuer avant de se suicider elle-même. Ils avaient été sauvés de justesse, et sa dernière fille, qui était bébé à l'époque, était restée longtemps entre la vie et la mort. Alors, donc si on voulait essayer de reconstituer le passage à l'acte qui s'était passé 20 ans avant, on pouvait distinguer d'une part la cause première du passage à l'acte, hein, qui était liée à cet objet A, on va voir ce que c'était. Et cet objet-là, c'était quoi? Eh bien, c'était la place qu'elle avait dans le désir de sa mère. Il fallait remonter à sa propre mère. Et puis, il y a des circonstances déclenchantes de l'acte. Il y a un point fixe, et puis il y a quelque chose de contingent qui, à un moment donné, va déclencher l'acte. Alors, la cause première, fondamentale, ça résidait dans des paroles qu'elle attribuait à sa mère. Alors, paroles qui sont évidemment une interprétation du sujet, bien entendu. Ça ne veut pas dire que la mère a proféré ses paroles, on n'en sait rien. Mais donc, elle réside dans des paroles qu'elle attribuait à sa mère au moment au moment de sa naissance. La mère, donc, elle serait née avec un frère jumeau, et la mère aurait dit à ce moment-là, elle n'aurait pas dû vivre. Donc elle citait cette phrase, elle n'aurait pas dû vivre, phrase équivoque, dont on ne savait pas si ça voulait dire que la mère pensait qu'il aurait mieux valu qu'elle ne vive pas, qu'il aurait mieux valu qu'elle meure, ou bien si c'était une constatation médicale objective, du style, l'accouchement était difficile, et s'il n'y avait pas eu la médecine, elle n'aurait pas dû vivre au sens plus factuel. Alors elle, donc, elle interprétait bien entendu cette phrase, elle l'interprétait pas consciemment. Il n'y avait aucune interprétation de cette phrase. 20 ans après, l'acte, il n'y en avait toujours pas. Elle répétait la même chose. Il se trouve que moi, j'ai lu le compte-rendu d'un entretien qui avait été fait avec elle 20 ans avant, qui était dans son dossier. J'ai pu comparer ce qu'elle me disait 20 ans après et ce qu'elle avait dit juste au moment de l'acte. Et c'était exactement la même chose. Elle n'avait pas bougé en 20 ans. Le discours, en fait, elle n'avait pas bougé. Et donc, elle, si vous voulez, ça ne faisait aucun sens pour elle, cette équivoque. C'est moi qui la voyais, enfin, les autres la voyaient, mais elle-même n'y attachait pas d'importance. Elle était prise dedans, et elle était prise dedans, c'est-à-dire qu'elle réalisait l'équivoque. Elle réalisait l'équivoque, dont on pouvait dire qu'évidemment elle l'avait interprété au pire, en fait. Et donc c'était comme si cette phrase qu'elle attribuait à sa mère avait scellé son destin. Et donc, elle interprétait en acte, elle citait la phrase maternelle en acte dans sa vie. C'est une citation en acte, comme une sorte de performatif. Elle accomplissait, hein, elle accomplissait. Elle l'interprétait, mais réellement. Et ce qu'elle interprétait, c'était la condamnation à mort. Et donc, alors les circonstances déclenchantes du passage à l'acte, hein, puisque cette phrase, elle existait depuis toujours. Donc, à quel moment ça se passe? Eh bien, c'était une répétition, c'était au moment de la répétition de la naissance de sa petite sœur. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle avait eu 3 ans, il y avait eu une petite sœur qui était née, et à ce moment-là, cette petite sœur avait pris toute la place dans l'amour du père. Donc elle avait une petite sœur, et le père préférait la petite sœur, et elle-même avait... Alors la mère aurait dit, cette mère mauvaise aurait dit, de la patiente, elle est tombée de son piédestal, et elle avait été surnommée Mater Dolorosa. Donc c'est assez frappant, donc Donc elle attribuait à sa mère de l'avoir surnommée, elle, Mater Dolorosa, dans son enfance, à la suite de la naissance de sa petite sœur. Donc c'était un surnom qui lui était resté, parce qu'elle pleurait tout le temps. Et donc, elle-même, donc, quand elle a eu des enfants, elle a d'abord eu 2 jumelles. Comme donc, répétition de sa naissance, donc 2 jumelles. Et c'est à la naissance de sa 3e fille, qui répétait donc la naissance de la petite sœur, à la naissance de cette petite fille, donc la 3e, donc tout bébé quand elle est passée à l'acte, juste après sa naissance, lui était venu un vœu terrible. Elle se souvenait de ce vœu au moment de cette naissance, qu'elle aurait aimé que la petite meure pour faire souffrir son mari. Bon, c'était une patiente psychotique, elle était persécutée par son mari, elle détestait son mari, et elle disait que l'intention de tuer les enfants avait surgi après une dispute conjugale. Donc, si vous voulez, l'intention consciente qu'elle donnait n'avait rien à voir avec tout ce que vous racontez. L'intention consciente, c'était, elle voulait éviter aux enfants d'avoir ce père-là. Elle voulait soustraire, hein, ça c'est un peu l'histoire de Médée, elle voulait soustraire ses enfants à son mari. Donc ça, c'est l'intention consciente. Mais en fait, on s'apercevait qu'il y avait donc une répétition, c'est-à-dire que c'était la naissance de la petite fille qui avait fait ressurgir les circonstances de la Mater Dolorosa, de tomber de son piédestal, et qu'à ce moment-là, elle devait accomplir la prophétie maternelle, elle n'aurait pas dû vivre. Elle n'aurait pas dû vivre, elle l'accomplissait à ce moment-là sur ses enfants, sur elle-même. Et donc, elle se livrait à la naissance de cette petite fille, à ce suicide infanticide. Donc, elle accomplissait la prophétie, ce qui devenait une prophétie maternelle. Et ce qui était le plus invraisemblable, pour moi, ma perception incroyable, côté invraisemblable du réel, c'est que cette petite fille, la dernière, qui était donc particulièrement visée dans cette affaire. Et bien cette petite fille, qui d'ailleurs a failli mourir, donc quand elle a été réanimée et dès qu'elle a pu marcher, avant même de parler, cette petite fille passait son temps à se jeter du haut des escaliers en bas. C'est-à-dire qu'elle se suicidait à répétition, elle tombait de son piédestal, elle se jetait, avant même de pouvoir parler, elle se jetait, elle réalisait elle aussi, c'était comme s'il y avait une transmission de cette malédiction quoi, maternelle, et elle réalisait le « elle n'aurait pas dû vivre » qui avait été transmis d'une façon. Donc là, vous voyez, ça rend concret ce que c'est que l'objet, quoi. Hein, l'objet, c'est vraiment c'est pas un sujet qui agit, là c'est un objet. C'est quoi cet objet? C'est vraiment ce qu'est l'enfant dans le désir maternel. Mais quand on dit ce qu'est l'enfant dans le désir maternel, il faut bien comprendre qu'on ne sait rien de la mère. En fait. Ce qu'est l'enfant dans le désir maternel, c'est quelque chose qui se fabrique, qui est fabriqué par le sujet à partir d'un réel qu'on ne connaît pas, effectivement le réel désir de la mère, et la manière dont le sujet va l'interpréter. C'est pour ça qu'il est sujet. Mais donc c'est cet objet-là, une déduction, c'est-à-dire de toute façon, la construction, ça fait un peu théorique, là c'est quand même quelque chose de très concret, quoi, de très bon. C'est cet objet qui est donc pas du tout un objet très abstrait, mais quelque chose d'assez concret, qui est pris dans une phrase, vous voyez. Elle n'aurait pas dû vivre comme objet, comme une massue, comme un pistolet, si vous voulez, qui va assassiner sur deux générations les filles. Quelque chose comme ça. Et ça montre que cet objet-là, c'est quand même quelque chose de... C'est pas une abstraction, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la clinique. C'est pas une élucubration gratuite. Voilà. Et donc, là, dans le passage à l'acte, donc l'agent de l'acte, c'est cet objet qui s'est donc séparé donc, du sujet comme historisé dans son histoire. Le sujet du désir, de la parole, etc. D'où la difficulté dans les passages à l'acte, qui est bien supérieure à l'acting out, d'où la difficulté, après coup, de faire se retrouver le sujet dans cette chaîne. Parce qu'il s'en est séparé d'une manière très radicale, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le passage à l'acte, que ce soit suicide ou meurtre, ce sont quand même les deux grandes formes du passage à l'acte, et bien dans les deux tentatives, dans les tentatives de suicide et dans les tentatives de meurtre, la difficulté qu'on éprouve à savoir quelque chose aussi, parce que le sujet s'est séparé avant de toutes ses raisons, de toute la causalité psychique, de tout ce qui fait le tissu habituel, la trame de nos raisonnements, etc., qu'on raconte, mais il s'est séparé de ça pour vraiment passer dans un autre registre. Et alors, donc, il faut essayer de le rattraper pour le ramener. Et donc, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Voilà, je m'arrête là. Je m'excuse d'avoir été si longue. Mais tout le monde était, toutes les filles, elle, d'abord, la malédiction. Si vous, elle était identifiée à la troisième. Hein? Et les deux premières, c'était elle aussi. Vous voyez? Si vous voulez, elle. Non, elle est l'aînée. Non, elle est l'aînée. Elle est la fille aînée. Dans une circonstance de génialité. Au moment de la naissance de la petite sœur, elle devient mater dolorosa. Toujours dans la nomination maternelle. Elle n'aurait pas dû vivre. Elle devient mater dolorosa. Quand la troisième naît, ce qui se déclenche, c'est le « elle n'aurait pas dû vivre ». Et le « elle n'aurait pas », si vous voulez, ce qui se déclenche à ce moment-là, c'est le « elle n'aurait pas dû vivre » qui porte sur tout le monde. Non, parce que la condamnation portait sur elle-même. Donc la condamnation portait sur les premières. Mais si. Mais si. Oui, non, c'est, si vous voulez, ce qui est déclenché à ce moment-là, c'est l'opacité du désir maternel, qui est un désir de meurtre. Voilà, c'est mère égale meurtre qui se déclenche. Mais c'est mère égale matrice infanticide. C'est ça. Donc, mais avec effectivement la couverture d'une intention consciente des fautes. Comment ? Les actes récurrents de quelqu'un, c'est-à-dire la répétition dans ça. Bon, ça c'est évidemment extrême. C'était surtout extrême de voir voir ça avec cette pureté, si je veux dire. Thank you. sujet. Le sujet ne donne pas de sens. Il agit. Non, il n'interprète pas. Si vous voulez, c'est une interprétation en acte. Non, c'est moi qui interprète l'acte. Moi, si vous voulez, de l'extérieur, j'interprète. Mais pour le sujet, il n'y a pas d'interprétation. Justement, il n'y a pas d'interprétation signifiante. Il n'est pas du tout logé. Moi, je le réintègre. Je le réintègre dans une histoire. Je donne un sens à ça, en disant, voilà, je vous donne des explications, je dis, les sujets... Mais en fait, elle-même, si vous voulez, elle s'est séparée comme sujet de cette phrase. Elle la réalise. Quand je disais, elle l'a citée en acte, elle ne lui donne aucun sens. Et ce qui était frappant, c'est que j'avais les deux entretiens de 20 ans d'écart et qu'ils étaient identiques. Il n'y avait eu aucune élaboration entre temps. Ce qui s'était passé, en fait, c'est que Alors donc, elle avait été hospitalisée. Normalement, elle aurait dû quand même y avoir une enquête judiciaire, mais on l'avait protégée de ça. C'est-à-dire, elle avait été prise pour une hystérique, et donc, ils avaient pensé qu'il fallait qu'elle ait un garçon. C'est hallucinant. Ils avaient pensé, les psychiatres qui l'avaient suivi à l'époque, ils avaient pensé que c'était une hystérique et qu'en fait, elle n'était pas contente parce qu'elle avait une fille et pas un garçon. C'était marqué. Et donc, ils l'avaient protégée de la justice et ils l'avaient renvoyée chez elle en lui disant de faire un garçon. Ce qu'elle avait fait. Et alors, ce qui était paradoxal, c'est que ça avait marché. C'est-à-dire que, moi, évidemment, après coup, on se dit, là, c'est assez dangereux comme histoire. Ça avait marché, c'est-à-dire que donc elle avait eu ce garçon, et donc, effectivement, là, il y avait une différence avec les filles, et en fait, pourquoi elle revenait avec elle 20 ans après, c'est que le garçon partait de la maison. Et donc là, elle avait refusé une forte dépression, et elle voulait suicider. Et donc, elle avait été hospitalisée, pour moi, quand je l'ai vue, elle était hospitalisée pour tentative de suicide, elle cherchait à suicider, tentative de suicide consécutive, au mariage ou au départ du garçon qui s'est passé depuis une vingtaine d'années. Donc c'était ça. Pour elle, je ne sais pas, moi j'ai plus peur de ce qui s'est passé, malade. Mais bon, c'est un exemple justement qui montre d'ailleurs qu'après tout, avec un raisonnement médical en particulier, enfin, à mon sens, on est arrivé à un truc qui a l'air complètement fou et qui a marché. Donc c'est vrai, un bricolage assez hasardeux, mais bon, elle a tenu 20 ans comme ça, elle n'est pas allée en prison. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez soigner Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que je veux dire, il faut quand même, pour arriver, il y aurait, dans un cas comme ça, je pense qu'elle avait dû suivre, elle avait suivi des thérapies sur cette personne dans les 20 ans. Elle avait été suivie. C'est un cas important. Bon, elle avait été suivie psychiatriquement. C'est-à-dire, elle avait pris des médicaments, elle avait vu des gens qui lui avaient parlé, qui l'avaient écouté, etc. Mais bon, elle avait visiblement, ce qu'on pouvait dire, c'est qu'elle n'avait absolument pas avancé d'un poil sur le chemin de la réintégration d'une chaîne signifiante. Mais je ne veux pas dire par là que c'est jamais possible. On doit toujours être tenté dans un cas comme ça, c'était un échec. C'était un échec sur ce plan-là. Je ne dis pas que c'était un échec thérapeutique, puisqu'elle avait tenu le coup pendant 20 ans grâce à son garçon. Mais par contre, il y avait un échec sur le plan d'une réintégration des coordonnées historiques du sujet. Parce qu'elle n'avait pas plus de distance, elle avait la même position par rapport à la phrase maternelle qu'elle avait eue 20 ans avant. Et donc, elle était aussi en danger. C'est-à-dire qu'elle avait passé un suicide et elle n'aurait pas dû vivre, marcher pour elle comme un revolver. Mais par contre, bon, effectivement, la thérapie, ça me semble-t-il, c'est d'arriver à essayer de faire réintégrer ce sujet dans la chaîne. Il y a énormément de cas où ça marche. Mais enfin, vous voyez que la difficulté dans le cas de passage à l'acte, c'est qu'il y a eu cette coupure très forte, ce rejet du sujet à un moment donné. La difficulté, c'est d'arriver à, par des artifices divers transférentiels en général, parce que ça doit passer évidemment par le transfert, par le fait de le capter dans un désir nouveau, on ne le réintègre pas dans le passé. On travaille pour fabriquer quelque chose de nouveau qui tienne des coups, toujours un bricolage, et on essaye d'arriver à ce que peut-être il devienne plus sujet de son histoire. De toute façon, on arrive plus à accéder un peu à ce qu'il le manipule comme une marionnette. Le départ du fils. Le départ du fils. Le fils est devenu une des filles. rompait en effet avec la malédiction, c'est un garçon. Non, je pense que c'était que le fils avait fonctionné comme une sorte de béquille, ben parce qu'elle elle devenait mère d'un fils, et donc il y avait quelque chose quand même d'hétérogène à l'histoire d'avant. Il y avait quelque chose qui sortait de la répétition. Il y avait peut-être aussi l'acte des médecins qui lui avaient dit de le faire, de donner une mission. Bon, elle allait devenir mère d'un garçon, une annonciation, un peu. Tu deviendras mère d'un fils. Bon, et peut-être qu'il y avait là aussi une sorte de mission qui prenait fin, parce que le fils était élevé, il partait, elle avait fini, elle n'était plus mère d'un fils à élever. Bon, il y avait des choses pour mieux. En tout cas, il y avait une dimension paranoïaque très forte, il y avait quand même un côté missionnaire. Donc là, il y avait eu la mission. Oui, j'ai pas répondu à votre question. Oui, c'est une question intéressante, c'est une question qui part vraiment d'un bon sentiment, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, dans une famille comme ça, il y a une pathologie qui se transmet de génération en génération. Et ce qu'il faut bien vous dire, c'est que si pathologique sur les familles, d'ailleurs, pour leur nom de pathologie, plus ou moins spectaculaire, là, c'est vraiment spectaculaire, mais vous passez toujours par l'interprétation d'un sujet. C'est-à-dire que là, moi, ce que je vous raconte, en quoi ça vaudrait pour un autre membre de la famille? On n'en sait rien. Oui, c'est lié à un support de la famille, mais au fond, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mettons, bon, voilà, eh bien, vous n'êtes pas né du même désir que votre frère. Vous n'avez pas fait, par exemple, bon, cette personne, elle avait quel état de la fameuse sœur préférée par le père, etc. Bon, ben, cette fameuse sœur, elle n'avait pas cette interprétation, due, elle n'aurait pas dû vivre, elle en avait une autre, peut-être tout aussi négative, si vous voulez. Mais bon, ce qui nous rend sujet, c'est la façon dont nous, on a interprété ce désir. Désir que nous ne connaissons pas, que nos parents ne connaissent pas non plus, d'ailleurs. Voilà, on est bien incapable de savoir pourquoi ils nous ont conçus, c'est évident. Donc eux, ils n'en savent rien, nous, on n'en sait rien non plus, mais là, il y a quelque chose de réel qui existe, auquel on n'a pas accès, mais nous, on va interpréter. Et on va interpréter au sens de l'inconscient. On va faire une construction, on va placer un objet qui cause notre désir dans tout ça. On va en retenir quelque chose. Et c'est ça qui va après donner les répétitions dont vous parlez. Et ce fantasme qu'on va fabriquer, qui nous constitue. Et ça, c'est pas le même que celui de votre voisin, et pas que celui de votre frère ou de votre sœur. Alors, quand vous mettez la famille ensemble, vous brouillez les cartes, à mon sens. Oui, c'est pareil. Chacun, si vous voulez, a un désir très singulier. Quand vous mettez tout ça ensemble et vous faites parler des gens, c'est déjà très. Vous voyez la complexité, déjà, pour un seul sujet. Alors, vous imaginez que si vous en mettez plusieurs. C'est la catastrophe. On ne sait plus du tout, on ne sait plus ça, on sait n'importe quoi. Donc, enfin, à mon sens, à moi, on brouille les cartes et on embrouille les choses plus qu'autre chose. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, par magie, vous pouvez toujours, si vous mettez les gens ensemble, qu'ils se donnent quelques baffes, et que vous, qu'ils parlent un peu, des fois, ça peut arranger un petit peu, on ne peut pas savoir. Mais, je ne dis pas que ça ne peut pas donner des résultats, mais à mon avis, c'est par hasard. Ça ne peut être que par hasard, parce que vous ne pouvez pas avoir accès. Pas très bien. Et par contre, il y a quand même un risque de brouillage. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas très positive par rapport à ça. C'est parce que je trouve que c'est déjà tellement compliqué avec un seul que. Bon. Oui, alors, vous savez, quand vous faites déjà une analyse singulière, si en plus vous allez voir un caractère familial, on ne peut pas plus. Pourquoi pas aussi un comportementaliste, un caractère familial, une analyse. Bon, moi, c'est pas ma position, donc je ne vais pas vous dire que c'est formidable. Non, vous interrogez d'autres personnes qui peut-être vous diront d'autres choses. Hein. Bon, moi, j'ai une certaine réserve parce que, justement, je crois à la singularité du sujet et de la manière dont vous animez les choses, et que c'est très délicat. Regardez, même le petit casting out que je vous ai raconté, regardez comme c'est compliqué. Tout est très compliqué. Alors, vous allez mettre tout le monde ensemble. Par exemple, là, dans ce cas-là, le casting out, on aurait mis la nièce, le père, la fille. On aurait mis tout le monde ensemble et on aurait regardé ce qui se passait. Ils sont inhibés. Ouais. Ben oui, c'est un problème, en effet. Quelle est votre question? C'est une très bonne question que vous posez parce que c'est très mystérieux une édition pour les analystes. Quelque chose de très difficile à comprendre. Bon, évidemment, il y a des cas très simples où des exemples de Freud, où bon, vous avez une édition liée à quelque chose de sexuel, immédiat. Dès le début d'une analyse, ça se lève, par exemple, parce que vous avez dégagé une signification sexuelle. Vous avez Freud donne comme exemple, l'écriture, quelque chose qui est lié à. Non, non, c'est des fonctions qui sont contaminées par une signification sexuelle. Donc vous avez une fonction, par exemple, qui est contaminée par une signification sexuelle, et du coup, comme vous ne voulez pas la signification sexuelle, vous contaminez la fonction. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, c'est pas, par exemple, écrire, ça serait comme l'encre solitaire, n'importe quoi. Vous voyez, la plume, vous aurez une signification phallique, mettons, et comme vous seriez. Vous auriez un problème par rapport à ça, vous le reportez, déplaceriez sur l'écriture. Donc il y a des problèmes de déplacement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se corriger assez facilement dans l'analyse. Le simple fait que vous allez mettre au jour de ces explications des interprétations nouvelles. Parce que ce n'est pas un sujet qui interprète plus, évidemment. C'est l'analysant qui est le matériel. Mais c'est pour ça que les analystes ne doivent pas parler trop. Ils doivent laisser la place à des choses. C'est très facile à ne pas voir, à ne pas entendre. Quand même. Mais bon, par contre, le vrai problème des inhibitions, c'est justement, ce n'est pas vraiment des symptômes. Donc, quand vous avez des gens qui viennent vous voir en disant qu'ils aimeraient être ceci, mais qu'ils aimeraient être ceci, mais qu'ils n'arrivent pas, etc., c'est pas toujours si simple. Justement, quand il n'y a pas une signification sexuelle qui vient, c'est pas toujours. D'abord, on ne peut pas. On ne peut pas faire n'importe quoi, on est très limité. C'est pas parce que vous avez envie d'être écrivain que vous allez devenir un écrivain dans une analyse, vous envoyez des choses comme ça. Vous ne pouvez pas appeler inhibition toutes vos incapacités. Pour qu'il y ait une inhibition, il faut déjà qu'on ait l'idée que quelque chose empêche, que quelque chose. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est analysable ou pas? Quelle inhibition, pour l'analyser, il faudrait la transformer en symptôme. En fabriquer un symptôme. En fabriquer un symptôme, ça veut dire en faire le lieu d'un conflit et arriver donc à élaborer ce conflit, l'interpréter. Mais c'est pas évident que ça le soit. Un point très assez opaque. Bah, l'angoisse n'a rien de naturel. La famille, c'est rien naturel, tout ça. Pour Freud, l'angoisse, c'est pas naturel. L'angoisse, c'est. Oui, mais il ramène ça, lui, toujours à l'angoisse de castration. C'est pas naturel. Non, mais ce qu'on appelle la castration dans la psychanalyse, c'est beaucoup plus général. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre en place comme sujet une réaction d'angoisse. Sans qu'elle soit liée avec quelque chose que vous avez subi ou cru subir ou eu peur de subir primitivement. C'est ça l'idée. Et ce quelque chose, pour Freud, c'est ça qu'il appelle l'angoisse de castration, c'est l'angoisse d'une perte primordiale liée à votre propre corps et qui est pris dans une histoire. animale, enfin, on peut parler d'une angoisse animale, d'une réaction de fuite devant un danger extérieur. Oui, d'accord. Bon, ben alors si vous prenez un animal, si vous le mettez dans cette situation, il va s'enfuir. C'est rare que les animaux soient ici. Hein. Oui, mais ça c'est une réaction très humaine. Une réaction très humaine, parce que vous, quand vous dites je suis la proie d'un prédateur, vous êtes déjà dans un fantasme. Quelqu'un qui vous attaque, vous n'êtes pas la proie d'un prédateur. Il vous attaque parce que vous votre porte-monnaie. Vous n'êtes pas sa proie. Il veut votre porte-monnaie. C'est vous qui dites je suis la proie d'un prédateur. Et ça, c'est votre fantasme, vous comprenez? C'est déjà votre fantasme. Et ce qui agit à ce moment-là, c'est une réaction de défense par rapport à une construction que vous avez fantasmatique, que vous êtes la proie d'un prédateur. Et dans la réalité, il n'y a pas, ça. Bah, normalement, on s'enfuit. Donc si vous ne vous enfuyez pas, c'est bien névrotique. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une intervention subjective dans l'histoire. D'ailleurs, c'est souvent un scénario de rêve. Vous savez, c'est un scénario de rêve classique. On est dans un danger et on n'arrive pas à courir, on n'arrive pas. C'est des rêves de castration typiques. C'est-à-dire que vous êtes frappé d'impuissance. Vous êtes frappé par la castration, vous êtes frappé d'impuissance. Hein? C'est une forme d'impuissance qui est lié au fait que justement il y a une très grosse angoisse de castration qui se développe à ce moment-là. C'est pas naturel, vous voyez. Il ne faut pas voir ça de manière naturelle. Vous avez très peu de nature. Hein. Vous en reste pas beaucoup. Bah, ce qui serait naturel, le réflexe naturel me semble être de prendre ce genre d'assassin, et comme ça, c'est un réflexe. Moi, je pense que c'est le réflexe animal. Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas naturel. C'est le terme naturel que je remets en cause. Oui. C'est que, en fait, vous n'êtes pas un être naturel. Donc, vous voyez, vous faites toute une ruse, tout un raisonnement à l'intérieur d'un fantasme. D'un fantasme sur l'autre. Non, non, mais je dis vous, c'est un exemple. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pris, tout ce que vous dites là, c'est forcément pris dans un scénario fantasmatique. Oui. Il y a la proie, le prédateur. Mais un autre n'aura pas le même scénario. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et votre scénario, effectivement, quand vous dites c'est ça vient de ma famille et de ce qu'ils m'ont transmis ou pas inconsciemment, en effet, ça vient de ce que j'ai dit tout à l'heure. Bah oui, mais ce que vous avez vu, vous auriez pu prendre le contre-pied. Donc si vous voulez, c'est un choix que vous faites inconscient. C'est un choix inconscient. C'est toujours pris quand même dans notre scénario. C'est pas naturel. Dans ce sens-là. C'est compliqué, hein. Disons que le... Hein? Voilà, vous devriez peut-être consacrer une soirée à cette question qui est tout à fait liée, qui est tout à fait articulée avec le séminaire L'Angoisse, parce qu'il y a des passages dans le séminaire qui portent cette question. Disons que la castration prise dans ce sens-là, oui. Maintenant, bon, ça s'articule très différemment chez Freud par rapport au développement et chez Lacan encore plus. Le rapport de la féminin à la castration, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas vous dire ça en 2 minutes. Ça serait un peu bâclé. Bon, je pense que c'est un peu compliqué. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous ai amené 2 exemplaires d'une revue et d'un livre que j'ai coordonné sur la question du suicide. Vous avez des exemples, si ça vous intéresse. Il y a beaucoup d'exemples concrets. passage à l'acte, acting out, etc.
La parole, c'est jamais un acte, de parole.
Alors ça, il y a une théorie analytique des esprits, des chats, etc. C'est un peu compliqué. Et si, une parole politique peut être un acte. Une parole politique peut être un acte.
Oui.